Madame, Monsieur, bonjour. À l'occasion du bicentenaire du Code de procédure civile de 1806, l'Académie des sciences morales et politiques a organisé le 15 mai 2006 une séance exceptionnelle dans la grande salle des séances de l'Institut de France, Quai Conti, à Paris. Cette séance était présidée par Monsieur André Damien, qui donne la parole à plusieurs intervenants successifs que vous allez pouvoir entendre maintenant. Le premier intervenant est M. John Rogister, correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques. Il s'exprime sur « Les magistrats du Parlement de Paris et la procédure civile sous Louis XV et Louis XVI ». Étude d'une mentalité. À la suite de cette communication de M. John Rogister, vous pourrez écouter M. Jean-Luc Chartier, avocat. Il s'exprimera sur les réformes dans le service de la justice du chancelier de Maupoux. Puis lui succédera M. François Théré, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, qui s'interroge d'un code à l'autre de 1806 à 1975 l'immobilisme, point d'interrogation. Quant à M. Jean Foyer, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, ancien garde des Sceaux, parlera sur les confessions d'un assassin impénitent.
Le sujet qui m'a été donné est vaste et dans l'espace de 20 minutes, 30 minutes, il n'est guère possible que de l'effleurer. Je commencerai par une simple constatation, c'est qu'en 1806, le Code de procédure civile vient couronner un édifice d'un droit civil uniformisé et relativement harmonisé. Tandis qu'en 1667, le Code de Louis XIV s'imposa tâcha de s'imposer sur une France où régnait la variété des coutumes. D'ailleurs, un long processus qui n'a jamais étudié dans son ensemble veut que depuis l'ordonnance de Charles VII de Monty-les-Tours jusqu'en 1727, date de la publication du dernier coutumier français, celui du Poitou, il y a eu en France un effort considérable pour publier et rassembler toutes les coutumes. C'est donc dans ce contexte d'un droit coutumier étendu qu'il faut comprendre la portée de l'ordonnance de 1667 qui, à mon sens, domine la période qu'on m'a demandé d'évoquer ce matin. Quel but s'était proposé Louis XIV lors de la grande ordonnance de 1667? C'est le premier code produit par un roi de France qui s'appliqua exclusivement à la procédure civile et qui chercha à appliquer celle-ci uniformément à travers le royaume. L'ordonnance passait systématiquement des ajournements aux contestations en cause, c'est-à-dire ce que nous appellerions les procès, aux requêtes civiles, demande pour un nouveau procès. Le but de l'ordonnance avait été de réduire la longueur de la procédure judiciaire. Monsieur le Président, vous venez de rappeler immédiatement cette exigence dans tout code de procédure civile, c'est toujours de réduire la longueur ou la complexité d'une procédure judiciaire. Ici, c'était en réduisant le nombre des démarches à entreprendre, tout en décourageant les plaideurs. Et ça, c'est un principe, je ne sais pas s'il existe toujours en France, mais il est toujours très présent dans le droit britannique, c'est qu'on doit décourager les gens de se porter devant les tribunaux. Alors, le titre 11, article 2 de l'ordonnance, exigeait par exemple l'échange des pièces entre les parties. Le titre 14, article 4, réduisait le nombre d'ajournements d'un procès. Le titre 35, article 35, exigeait une avance de 450 livres pour une requête civile. Inévitablement, les parlementaires parisiens, invités à discuter de ces provisions avec le gouvernement, formulèrent de nombreuses objections. Colbert et Pussor, les moteurs de la réforme, avaient voulu exclure les parlementaires de la discussion de ce que contiendrait l'ordonnance. Mais le premier président de Lamoignon réussit à convaincre Louis XIV de laisser voir le projet d'ordonnance à quelques-uns de ses collègues. L'exclusion relative des parlementaires des discussions qui ont résulté en l'ordonnance et le préjugé hostile assez général à l'encontre des parlements de la part des historiens français a contribué à ce qu'on ait complètement occulté le rôle des parlementaires parisiens dans un processus de réforme de la procédure qui était parallèle à celui entamé par le roi. Attardons-nous un instant sur leur but et sur leurs moyens d'action de ces parlementaires parisiens. Il y avait premièrement l'usage des mercuriales au début de l'année judiciaire. Par l'usage des mercuriales et la voix du procureur général du roi, le Parlement se réglementait lui-même, mais aussi contrôlait l'action des juridictions inférieures. Une mercuriale pouvait donner lieu à un arrêt de règlement visant à supprimer un abus qui s'était glissé dans la procédure. Déjà, en 1658, un arrêt de règlement du Parlement avait été pris pour réduire la longueur de la procédure des appels. Plusieurs procédures pouvaient se faire à l'avenir et, en fait, à l'oral plutôt que par écrit. L'arrêté établissait des amendes pour les greffiers, les procureurs qui exagéraient le montant de leurs honoraires. Par la suite, le Parlement étendit ce système d'amendes aux huissiers. En 1665, donc 2 ans avant l'ordonnance, un autre arrêt de règlement définissait la manière dont les cas pouvaient passer d'une juridiction à une autre et la procédure qu'il fallait employer. Il créa aussi un système uniforme dans le cas des saisies réelles et de succession aux bénéfices laïques, procédure sujette à des variations locales considérables. Dans ces mercuriales et ces arrêts de règlement, le Parlement de Paris faisait preuve du même esprit qui guidait alors Colbert et Pussor dans leur réforme de la procédure civile, c'est-à-dire réduire la durée et les longueurs de la procédure et réunir les règlements passés en un seul code de procédure qui puisse être appliqué par toutes les cours de l'énorme ressort du Parlement. Un arrêt de règlement de 1665 contenait tellement de provisions utiles que certaines d'entre elles, sur les épices par exemple, furent reprises dans le texte de l'ordonnance royale. On oublie aussi que c'était le Parlement qui était chargé de la discipline des juridictions inférieures de son ressort et qui se chargeait de surmonter l'opposition passive de ces tribunaux au nouveau règlement. Le 28 août 1665, un arrêt de règlement de 200 articles établissait le barème des paiements pour les litigants afin de réduire les frais et le nombre des appels. Un deuxième moyen d'action, je devrais dire un pôle de réflexion, étaient les conférences que tenaient certains parlementaires au XVIIe et au XVIIIe siècle. Le premier président de Lamoignon, encore lui, sous Louis XIV, en fut un des principaux animateurs. Sous le règne de Louis XV et Louis XVI, un de ses parents, président de Lamoignon, futur garde des Sceaux de Louis XVI, en fut un autre. On oublie aussi que les conseillers du Parlement faisaient évidemment leur apprentissage dans le même milieu familial que les conseillers d'État. Un réformateur royal est en général un ancien parlementaire. Je parle naturellement de Pussor, je parle plus tard de Daxo. L'unité du milieu judiciaire explique pourquoi 20 parlementaires parisiens composèrent à côté de 16 conseillers d'État le tribunal des grands jours d'Auvergne. La tenue de ce tribunal exceptionnel donna lieu à d'autres arrêts de règlement suite aux abus découverts par les juges. Le troisième moyen d'action parlementaire était l'activité de certains parlementaires, le premier président de Lamoignon en particulier. Lamoignon s'adressait au problème des contradictions que recelait le droit coutumier. Tout autant que les abus dans la procédure que nous venons d'évoquer, il y avait les variantes dans le droit coutumier étaient source naturelle de confusion. Il est important de préciser que Lamoignon ne voulait pas uniformiser le droit ou abolir le droit coutumier, mais il voulait formuler des lois uniformes là où le droit coutumier ne s'était pas prononcé ou où il était contradictoire. Même si les efforts du premier président furent dépassés par l'ordonnance de 1667, il reste un témoignage de l'activité parlementaire dans le domaine de la réforme de la procédure. dans des questions comme les dettes, les droits seigneuriaux et la succession aux fiefs. Et d'ailleurs, cette procédure et ces réformes faites par le Parlement tiraient beaucoup de ces lumières de l'activité d'avocats qui gravitaient autour du Parlement, tel au XVIIIe siècle le futur président Henrion de Pensée, qui a traversé, pour ainsi dire, l'Ancien Régime pour terminer sa carrière comme président de la Cour de cassation, celui que Napoléon appelait ce vieux bonhomme qui en connaît plus que nous tous. D'ailleurs, le président Henrion de Pensée avait investi tout son avoir intellectuel dans l'avenir de la féodalité. Et c'était par ses travaux sur la féodalité qu'il a contribué aux réformes du droit féodal sous l'Ancien Régime. Comme l'a fort bien dit l'historien américain Albert Hampshire, l'administration royale n'avait pas le monopole du désir d'éliminer les abus dans l'administration de la justice. Pourquoi donc le roi et ses ministres, d'un côté, avaient-ils exclu les parlementaires de la rédaction de l'ordonnance de 1667? Le souvenir de la fronde a jeté une ombre sur les rapports entre Louis XIV et le Parlement, au dépens, à notre sens, du bien de la réforme et de la chose. Le fils du premier président de Lamoignon, Chrétien de Lamoignon, déclara par la suite que, faute de s'être servi de l'expérience pratique des parlementaires, les rédacteurs de l'ordonnance de 1667, et je cite, étaient tombés dans mille erreurs. Dans cette atmosphère, les rapports entre le premier président de Lamoignon et Pussor ne pouvaient être que mauvais. Très souvent, Lamoignon rappelait à Pussor que toute mesure visant à autoriser la poursuite des juges du Parlement, par exemple par les partis, était, je cite, « contraire à la justice souveraine du roi, dont les cours de parlementaires sont les dépositaires ». Souvent aussi, il lui rappelait que certaines stipulations de l'ordonnance n'étaient pas nécessaires, car le Parlement avait reçu une autorité suffisante du roi pour les choses qui concernaient l'administration de la justice et n'avait pas besoin d'une autre confirmation à cet égard. Et cela nous ramène évidemment à la question des tribunaux d'Ancien Régime, en particulier des parlements, qui sont des tribunaux de cour souveraine. Ce n'est pas, si vous voulez, comme c'est le devenu au XIXe siècle, les différentes hiérarchies de tribunaux. Les parlements détiennent une parcelle de la souveraineté royale. Alors cette parcelle de la souveraineté royale, on ne peut pas la violer sans en même temps violer la souveraineté du roi lui-même. Tout au moins, c'était la théorie adoptée par les parlementaires, et à cela, la réponse était que le roi n'était pas tenu à observer les règles anciennes. Et comme Pussor le rappelait au premier président de Lamoignon, comme dit l'apôtre, « Serviamus in novitate spiritus, et non in vetustate literae ». Hampshire a noté qu'aux conférences tenues avant la présentation de l'ordonnance d'avril 1667, la majorité des magistrats présents étaient des parlementaires, mais que lors des votes, ou plutôt lors de la prise des opinions, pour employer le langage de l'Ancien Régime, on ne vote jamais sous l'Ancien Régime, on prend les opinions. Peut-être que cette tradition s'est perpétuée dans la pratique de la justice française, je ne le sais pas, peut-être d'autres me l'apprendront. Mais lors de la prise des opinions, les parlementaires ne se rangeaient jamais du côté de leur premier président. L'historien en a conclu que la peur de déplaire au roi Soleil avait joué un grand rôle dans leur comportement. Au XVIIIe siècle, la réforme de la procédure civile continue toujours sur les deux niveaux que je viens de vous décrire. C'est-à-dire du côté gouvernemental et toujours à travers des hommes, souvent un chancelier comme Daxo, qui ont été autrefois des parlementaires et dans le cas de Daxo, qui a servi au parquet. Donc autour de la cheville ouvrière du Parlement qu'est le parquet, où se prépare, où se préparaient chaque année les mercuriales. Alors sur ce niveau gouvernemental, donc d'anciens parlementaires, prenons le cas d'Axo, continue l'œuvre de 1667 par les ordonnances sur les donations, par un effort de réformer les cours inférieures, car le grand problème avec l'Ancien Régime, c'est que bon, il y a les parlements, le ressort des parlements sont immenses, le cas du Parlement de Paris, le ressort s'étend jusqu'en Auvergne et jusqu'à Lyon, et par la suite, on nous le dira sans doute plus tard, afin de rapprocher la justice du justiciable, on a voulu créer des tribunaux dans des villes, effectivement, comme Lyon ou Poitiers ou autres. Il y a donc ce problème-là. Mais il y a aussi le problème des tribunaux inférieurs, des bailliages, des sénéchaussées, des présidiaux, c'est-à-dire de ces bailliages qui se dédoublaient d'une autre juridiction afin de faciliter les procès et, encore une fois, avoir une justice plus expéditive. Mais le problème, c'est qu'on n'a jamais su, même à la fin de l'Ancien Régime, combien de bailliages et de sénéchaussées il y avait. Et cette question m'a beaucoup amusé lorsque j'ai étudié le grand exil du Parlement de Paris en 1753-54, parce que à ce moment-là, il y a eu l'exil du Parlement, le roi, afin d'assurer la justice à ses sujets, avait créé des cours d'exception, chambre royale en particulier. Alors il fallait, pour donner autorité à ces cours, faire enregistrer l'acte de création de cette chambre royale dans tous les tribunaux, dans le ressort inférieur du Parlement, dans tous les bailliages et sénéchaussées. Alors après le retour du Parlement, le Parlement s'est inquiété de savoir combien de ces cours avaient enregistré la chambre, l'acte créant la chambre royale, afin de les punir. Or, le problème était grand parce qu'ils ne savaient pas combien il y en avait. Alors, j'ai trouvé les papiers du conseiller du Parlement qui était chargé de faire la liste afin que le Parlement puisse sévir. Et cette liste est élaborée à partir d'almanachs royaux défectueux dont on dit de lettres de gens, mais monsieur, il y a un présidial, je crois, Vincennes, etc. Alors, il n'y avait pas avant la fin de l'Ancien Régime, et même à cette époque-là, de liste complète des présidiaux et des bailliages. Il y en avait qui étaient très grands, il y en avait qui étaient très petits. Et puis, autre question, ces postes étant remplis par des officiers qui achetaient leurs offices, il y avait parfois eu des carences, l'office n'avait pas été acheté, il y avait un bailliage, mais il n'y avait pas de bailli. Et il n'y avait même pas de lieutenant général. Alors, sans entrer la question de comment les parlementaires s'y sont pris pour punir ces juridictions inférieures, il suffit de dire que le grand problème a toujours été d'établir la discipline dans les cours inférieures du Parlement. Et c'est à quoi le Parlement s'est attaché au cours du XVIIIe siècle. Et aussi le chancelier d'Aguesseau par une ordonnance d'ailleurs qui n'a pas eu lieu sur les présidiaux. Tandis que d'un côté, donc, nous avons le chancelier de France, issu du milieu parlementaire parisien, continuant dans la lignée de Louis XIV avec des ordonnances sur les donations, sur les présidiaux et tout cela. Il y a aussi les parlements, le Parlement de Paris, qui continue, elle aussi, son action, au niveau peut-être moins des mercuriales que sur le niveau des arrêts de règlement. Et là, dans certains domaines, par exemple, le Parlement, à la suite des conflits du XVIIIe siècle, les conflits entre Louis XV et ses parlements, s'est attaché de plus en plus à garantir au sujet du roi la protection contre l'arbitraire royal, contre les lettres de cachet, contre les emprisonnements, sans qu'il y ait une procédure judiciaire. Cet aspect de l'action parlementaire, à mon sens, a été beaucoup négligé, mais se place dans, si vous voulez, le développement des droits de l'homme qui aura toute son ampleur avec la Révolution française. Je veux terminer par une évocation d'une autre question qui, à mon sens, n'est pas sans intérêt pour nos discussions ce matin. C'est la question de la cassation des arrêts. Parce que nous avons tendance de nos jours à considérer les appels et la cassation comme une procédure naturelle. Mais au XVIIIe siècle, on doit se rappeler que du fait, comme je l'ai rappelé il y a un instant, que le Parlement était une cour souveraine, on ne pouvait pas faire appel d'une décision d'une cour souveraine, sauf dans certains cas très précis. Et d'ailleurs, le conseiller d'État au Conseil des Dépêches, Gilbert de Voisin, qui avait été nommé au Conseil des Dépêches par Louis XV en 1757, afin d'étoffer le Conseil du Roi de juristes, et qui avait l'expérience de la procédure parlementaire, dans son mémoire sur les cassations, Gilbert de Voisin avait déclaré que la cassation n'est point une voie de ressort ni de pure juridiction. La juridiction d'où émanent les arrêts est celle du roi lui-même immédiatement, et par conséquent elle est souveraine. En vertu de l'ordre public du royaume, ses cours jugent en son nom et il juge par ses cours. Quand ceci a lieu, tout procès de juridiction est terminé. La cassation, donc, est plutôt une voie légitime de plénitude de puissance. De la part des sujets, c'est un recours extraordinaire au prince, et de la part du prince, c'est un acte extraordinaire de son souverain pouvoir. Donc, je crois qu'on ferait bien de se rappeler que, sous l'Ancien Régime, la cassation est une voie exceptionnelle. Même s'il y a eu des juristes comme Henrion de Pensée qui ont voulu établir une continuité entre la pratique de l'Ancien Régime et la pratique telle qu'elle se développe dans les tribunaux au XIXe siècle. Cette continuité, à mon sens, est plutôt factice. J'ai essayé, Monsieur le Président, au cours de ce très bref résumé, de passer sur toutes les questions, il y en a beaucoup d'autres que je n'ai pas eu le temps d'évoquer ce matin. Mais j'ai voulu vous donner l'image d'un certain milieu parlementaire, mais qui est aussi évidemment le milieu dont sont issus les réformateurs qui ont travaillé pour le roi et qui ont travaillé aux grandes ordonnances, tant de l'époque du grand roi qu'au XVIIIe siècle. Et j'ai voulu vous montrer qu'en même temps qu'il y avait cette lente poussée vers une codification de la procédure à partir de 1667, ce processus se dédouble d'une activité parallèle qui ne se rejoint peut-être pas très souvent de la part du Parlement de Paris surtout, qui lui aussi a voulu s'attaquer aux abus et aux problèmes que posait une juridiction civile qui reposait sur un droit coutumier extrêmement compliqué et dont on venait à peine en 1726 de publier le dernier volume, si je puis dire, de cette compilation. L'Ancien Régime a vécu de ces contradictions, mais il a quand même laissé des idées et des notions que sans doute ce matin d'autres vont approfondir lorsqu'ils suivront le passage du Code civil de 1806. Je vous remercie pour votre attention.
Merci, monsieur le professeur et chers confrères, de ce tableau que vous venez de nous brosser à grands traits et qui est très utile pour la compréhension du sujet qui est le nôtre. Je crois que il y a trois époques, et c'est la troisième qu'on va aborder maintenant, la montée en puissance des parlements, qui deviennent le délégué du roi en toute matière, puisqu'ils ont sa couronne sous la forme du mortier, sa robe, sa couleur, son pouvoir, et que le roi, à son insu, est représenté par des juges que les connaissances juridiques ou les achats de charges ont mis à une place éminente. Puis il y a la grande flagellation qui est le rappel par le roi que toute justice émane de lui et qu'il ne saurait y avoir nulle part dans l'État quelqu'un qui puisse s'opposer à sa volonté en matière judiciaire. Et puis il y a Maupeou qui va mettre en action cette grande flagellation, malheureusement, à mon avis, pour le sort de la monarchie à laquelle je suis attaché, car c'était une des grandeurs de la France. Louis XVI, par faiblesse ou par conciliation, va suivre Malesherbes et on va supprimer la réforme Maupeou, ce que je déplore pour ma part, parce que je pense qu'elle crée une magistrature moderne. Et je donne la parole maintenant à mon confrère et ami Jean-Luc Chartier.
Merci, Monsieur le Président. Par son caractère radical et parce qu'il couronnait un conflit bruyant et explosif, le coup de majesté tel qu'on l'a appelé, par lequel Louis XV et le chancelier de Maupoux entreprirent en 1771 la refonte des institutions judiciaires du royaume, a vivement impressionné nos innombrables réformateurs de la justice et nos historiens. Si la monarchie pouvait être sauvée, ce n'est pas en 1774 par Louis XVI et par Turgot, c'était en 1770 par Louis XV et par Maupoux, ainsi que l'affirmait Pierre Gaxot. On a longtemps cru que les magistrats avaient été les meilleurs soutiens de la monarchie. Cela est vrai à certaines époques, c'est faux au XVIIIe. À ce moment, les parlements ne sont plus que des assemblées de privilégiés, de grands propriétaires, de châtelains qui entendaient faire de la puissance qui leur était remise pour appliquer la loi une arme contre la loi elle-même. À la veille de la Révolution, il n'y a plus deux noblesses. Il n'y en a plus qu'une, la noblesse de robe et la noblesse d'épée sont confondues par des privilèges communs, des intérêts communs, des unions, des mariages et des parentés. Trompés par leurs déclarations démagogiques et par leurs remontrances emphatiques et par un étalage de grands mots humanitaires et pompeux, les historiens ont pris les magistrats pour les défenseurs du peuple, les ennemis du pouvoir absolu et les libéraux héroïques. Nul n'a plus méprisé le peuple qu'eux. Ils ont toujours accepté sans la moindre protestation les impôts qu'ils ne payaient pas. Et quand le fameux procureur général La Chalotais au Parlement de Rennes dressa un plan d'instruction publique, il eut bien soin d'en exclure la grande masse paysanne pour la raison que, travaillant de ses bras, elle n'avait pas besoin de savoir lire. En revanche, contre ce 20e qui touchait leur énorme puissance financière, ils mirent tout en œuvre. Remontrances, itératives remontrances, refus d'enregistrement, grèves, poursuites contre les collecteurs et les contrôleurs des impôts. Voltaire s'en étonnait. Comment, se demandait-il, les magistrats peuvent-ils retirer au roi les ressources dont il a besoin pour vaincre l'ennemi? Et nous étions en pleine agitation de la guerre de 7 ans. Il est contradictoire d'accabler le roi pour l'avoir perdu et d'encenser les juges qui se sont ingéniés à le lui faire perdre, continuait-il. Louis XV n'était ni indifférent, ni absorbé par ses plaisirs. Il connaissait ses devoirs, mais il était paralysé par le respect des corps intermédiaires, des situations acquises qui étaient comme l'une des lois de la monarchie. Quand les choses arrivèrent à un point critique, quand il se fut persuadé que le duc de Choiseul non seulement défendait mal les prérogatives du souverain, mais était de cœur avec les parlements, il se résigna à frapper. Choiseul renvoyé, il constitua ce que nous appellerions un ministère fort, dont la tête fut le chancelier de Maupeou. On ne refait pas l'histoire, mais il n'est pas interdit de rêver. Si Louis XV avait vécu 10 ans de plus, que serait-il arrivé ? La monarchie, très probablement, aurait continué à se moderniser et la France serait arrivée sans secousse à un état comparable au consulat. Il n'aurait plus fallu qu'un Louis XVIII pour le doter du régime représentatif. Si les gouvernements de l'Ancien Régime avaient connu un journal officiel, s'ils avaient eu l'idée de promulguer, comme leur successeur ne manquerait pas de le faire voter à l'Assemblée nationale constituante, réitérée par la Convention, l'interdiction aux tribunaux judiciaires de connaître, de juger et de s'immiscer dans les affaires de l'administration, alors Maupeou, dernier chancelier de la monarchie, ne conserverait dans l'histoire qu'une modeste place. Il serait resté titulaire non seulement de son titre, mais aussi de son emploi jusqu'à la suppression de celui-ci. Il n'aurait pas encouru la haine vigilante des porteurs de toges rouges ou noires, couvertes ou non d'hermine, qu'il l'a jeté à bas parce que mauvais serviteurs de l'État, protecteurs tenaces de leurs privilèges, plus occupés de leurs intérêts que de rendre la justice, ils émettaient au surplus la prétention d'être les impitoyables censeurs de ceux qui avaient la charge des affaires publiques. Grandi et élevé dans le sérail, Maupeou les connaissait bien. Tant qu'il ne fut que magistrat, il fit comme eux. Il fronda le pouvoir, il défendit obstinément les privilèges et prérogatives attachées à la robe. Il profita de la démesure générale qui était le propre de cette classe. Il reçut à 19 ans la cimare de conseiller au Parlement, à 23 ans l'hermine de président à Mortier, et à l'âge où normalement il eût dû hanter les cabarets du quartier latin avec les autres basochards, il était censé rendre la justice. Lorsqu'il fut appelé au poste de chancelier, illustré par tant de ses prédécesseurs, il se souvint sans doute de ses propres excès et pensa qu'ils étaient insupportables et qu'il fallait choisir entre l'État et le Parlement et que l'un des deux devait périr et que ce ne devait pas être la France. Tenace, il accomplit ce qu'il avait décidé, qui était de l'intérêt national. À cette époque, toute décision gouvernementale, pour être portée à la connaissance du public et pour ensuite être exécutée, devait être enregistrée en cour de parlement. À cette occasion, elle faisait l'objet d'un examen par les magistrats qui s'y trouvaient à redire, rédigeaient des représentations ou des remontrances adressées au roi. S'il était décidé de passer outre, le roi, le droit de conseil ayant été exercé, il ne restait plus aux parlementaires que de s'incliner. Admettre le contraire, c'était subordonner l'État aux juges, c'était leur conférer la magistrature suprême. On a souvent et longuement pu épiloguer sur la légitimité du pouvoir monarchique. Personne n'a jamais sérieusement défendu la thèse de la magistrocratie, fût-ce les membres composant ce corps intègre et compétent, ce qui n'était pas toujours le cas. La petite histoire est pleine de leurs faiblesses, de leurs prévarications et de leur nullité, surtout de leur inutilité. À cette fin de 18e, combien de courses en plaideur ? De magistrats en surnombre dans celles qui en avaient, dont on n'achetait les charges que pour les privilèges qui étaient attachés. L'appareil judiciaire, dans son entier, avait tellement besoin d'être rénové que l'ouvrage du chancelier de Maupoux eût été incomplet s'il était réduit aux juridictions d'appel. Il procédera à des réformes profondes qui visèrent l'organisation de la justice dans son entier. Pour être moins spectaculaire et n'avoir pas beaucoup arrêté les historiens, les réformes accomplies par le chancelier de Maupoux à l'intérieur du service de la justice suffiraient à elles seules pour que le souvenir de Maupoux demeure. Magistrat judiciaire par tradition et formation, ce sera bien évidemment au sein de cette juridiction qu'il marquera son passage à la chancellerie, surtout par des décisions dont beaucoup subsisteront après son exil, tant elles étaient utiles à cette époque pré-révolutionnaire. Elles porteront sur le fonctionnement de la justice d'une part et le statut des magistrats et de leurs auxiliaires d'autre part. Le code de procédure civile va être l'expression la plus frappante de la réforme du service de la justice de Maupoux. Le démembrement du Parlement de Paris, qui avait entraîné la création de 6 conseils supérieurs, dont les juges avaient été recrutés sur place, posait un problème grave, celui de la procédure qui devait être utilisée dans les nouvelles cours. Il eût été aisé de leur appliquer celle alors en vigueur au Parlement, mais elle datait de l'ordonnance de 1767, comme vous l'a rappelé mon prédécesseur à ce micro. Depuis plus d'un siècle, ces règles n'avaient pas changé, elles avaient vieilli, elles s'étaient alourdies. Il était indispensable, disait le chancelier, je le cite, d'écarter par une nouvelle loi tout ce que la cupidité a fait inventer pour éluder les règles prescrites par cette ordonnance et d'y substituer une forme plus simple et plus à l'abri de pareils inconvénients. Depuis longtemps, on en parlait, et d'Aguesseau s'y était attelé sans pouvoir terminer son ouvrage. Outre que la paternité, s'il en eût été éminemment respectable, le texte promulgué, ne s'intitulant pas le Code Maupoux, mais plus simplement édit portant règlement pour la procédure. Son ambition était assez modeste. Le chancelier le fait définir ainsi par le roi lui-même. En rendant la justice gratuite dans une grande partie de notre royaume, nous nous sommes proposés en même temps de la rendre plus prompte et plus facile en simplifiant les formes d'y procéder et après nous être fait rendre compte des abus qui se sont introduits, surtout dans l'instruction des affaires de nature à être jugées par écrit. Il n'en reste pas moins que ce règlement constituait un véritable code de procédure civile, inspiré par des formes établies au Conseil dont une expérience de 30 années assurait leur utilité. En 13 titres, de l'introduction des causes à l'audience jusqu'à l'exécution des arrêts, tous les incidents, interventions possibles sont soigneusement réglés, simplifiés par rapport à l'ordonnance de 1667. Les abus particuliers de l'époque, une fois éliminés, tels ceux destinés à accroître le montant des frais en transcrivant en entier dans les conclusions les pièces versées au débat, il était rappelé à la décence, les avocats et procureurs, afin qu'ils n'utilisent plus de termes injurieux contre les parties ou leurs confrères. L'application de ce code représentant toutefois quelques difficultés d'interprétation, il y fut porté remède après 2 années d'usage par la publication d'une déclaration de 33 articles du 29 octobre 1773, interprétative de l'édit de février 1771. Le chancelier expose par ce roi, je le cite, « Nous nous sommes proposés par notre édit de simplifier la procédure pour notre cour de Parlement de Paris nos conseillers supérieurs et sièges y ressortissants. Toujours animés des mêmes motifs et voulant remédier aux inconvénients qui, suivant les représentations qui nous ont été faites, pouvaient résulter de la disposition de quelques articles, nous avons jugé à propos d'expliquer plus particulièrement nos intentions. La procédure civile, une fois simplifiée, il y avait aussi beaucoup à réformer du côté de la procédure pénale. Maupeou va en régler trois points. La prévôté, les contumaces et les contraintes par corps. La prévôté, cette troupe chargée de la police et du maintien de l'ordre, bénéficiait dans l'exercice de ses fonctions de l'avantage appréciable d'avoir compétence sur tout le territoire national. La brigade de maréchaussée disposait du droit de poursuite et pouvait sans problème procéder à la capture des délinquants qu'elle recherchait même hors limite du territoire où elle exerçait son activité. Cet avantage était amoindri par un problème compliqué et formaliste. Les difficultés commençaient dès après l'arrestation, au moment où il fallait trouver des juges pour l'accuser, celui-ci relevant, selon l'infraction commise, soit de la prévôté, soit d'un présidial, soit d'une juridiction pénale de droit commun. Il fallait donc préalablement obtenir des juges du présidial une décision pour déterminer la juridiction compétente. Le brigadier, auteur de l'arrestation, devait conduire le prévenu au présidial le plus proche du lieu de la capture, y attendre la décision, le ramener ensuite devant les juges désignés, mais qui devaient être ceux du lieu où le délit avait été commis pour le faire juger au fond. À une époque où cette police effectuait ses déplacements à cheval et les délinquants à pied, cela faisait du temps perdu, des frais et surtout pour les gendarmes un éloignement de leur garnison. Or, ces gendarmes faisaient bien leur métier à telle enseigne que pas un seul cahier aux états généraux ne présentera de critiques à leur égard. Bien au contraire, beaucoup s'accorderont à demander l'accroissement de leurs effectifs. Ils n'étaient plus, dès lors, tenu compte ni du lieu de la capture, ni de celui de l'infraction, mais seulement de l'intérêt de la prévôté. Pratiquement, l'arrestation réalisée, les gendarmes réintégraient leur brigade avec le captif qu'ils présentaient au présidial, dont il dépendait lequel, à son tour, désignait les juges du fond les plus proches, tout en respectant les règles de compétence légales. Les prévenus n'y perdaient aucune garantie, et les gendarmes, par contre, voyaient leur tâche nettement simplifiée. La deuxième réforme concerne les contumaces. Il n'existait aucune disposition réglant de façon uniforme à l'intérieur du royaume les problèmes posés par le jugement et la purge des contumaces. Tantôt, l'édit de création d'une juridiction les avait localement résolus, tantôt, et c'était le cas le plus général, ce cas n'avait pas été prévu et les tribunaux avaient établi leur propre procédure. Des disparités pouvaient donc être la cause de graves dénis de justice auxquels il était utile de porter remède. Personne ne contestant que certaines condamnées, par défaut, pouvaient être de parfaite bonne foi et n'avaient pas voulu délibérément se soustraire à leur comparution, mais avaient pu simplement ne pas être touchées par les assignations délivrées par les huissiers. Ils les avaient donc totalement ignorées. Aussi, le chancelier, sous la signature du roi, comme à l'accoutumée, expose, et je cite, « Nous étant fait représenter les mémoires qui nous ont été adressées par plusieurs cours de notre royaume par rapport aux contumaces des accusés qui ne se présentent pas pour subir l'interrogatoire lors du jugement du procès, nous avons jugé nécessaire de faire cesser la diversité d'usages qui subsistent dans les dites cours sur la manière d'instruire les dites contumaces et de fixer la jurisprudence sur l'effet des jugements rendus contre les dits accusés et voulant que l'administration de la justice soit uniforme en cette matière. » En conséquence, faute par les accusés d'avoir comparu ou d'être mis en prison, il était passé outre au jugement du procès. Toutefois, les sentences, les jugements et les arrêts, rendus sans avoir entendu tous les accusés sur la sellette ou derrière les barreaux, n'étaient regardés, exécutés que comme sentences de contumace à l'égard de ceux qui n'auraient pas subi l'interrogatoire en présence des juges, quand bien même ils avaient comparu à toute l'instruction. Avant toute exécution de la sentence, ou lorsque les contumaces se présentaient d'eux-mêmes, il était procédé sans délai à leur interrogatoire, à un nouveau jugement à leur égard, mais ils ne pouvaient y être admis qu'en acceptant d'aller en prison, et c'est toujours le cas aujourd'hui. La troisième réforme fixe la réforme de la contrainte par corps. La prison pour dette existait et le chancelier n'ignora pas les excès commis par certains agents d'exécution, moins soucieux de respecter les formes requises que de justifier leurs émoluments. L'emprisonnement était, pensait-il, une mesure grave.
qui devait être entouré de toutes les garanties.
C'est pour répondre à ce but qu'a été promulgué l'édit portant la création de 10 officiers gardes du commerce pour les contraintes par corps pour dette civile dans la ville, dans les faubourgs et banlieues de Paris. Le chancelier l'explique ainsi. Un des objets principaux dans l'administration de la justice est la pleine et entière exécution de ses mandements. La contrainte par corps pour dette civile, établie en faveur du commerce, deviendrait une voie préjudiciable à la sûreté et à celle des citoyens si elle ne pouvait être employée sans ruse, fraude ni violence. Ces poursuites rigoureuses, presque toujours confiées à des officiers de justice malfamés, souvent exercées contre les débiteurs à qui la connaissance des procédures et jugements préalables avait été soustraite à dessein contre des jeunes gens sans expérience et même par mépris sur des personnes contre lesquelles les jugements n'avaient pas été prononcés, ont donné lieu à des excès, à des violences et à des crimes dont il est important d'arrêter le cours. De pareils désordres ne peuvent que favoriser la fraude et porter atteinte au commerce. Il est de l'intérêt public d'en attaquer une de ces causes en prenant les mesures nécessaires contre l'usure et tous les négoces réprouvés par la bonne foi. Nous avons jugé nécessaire de ne confier l'exécution de ces actes de justice qu'à des personnes choisies et dont la capacité, prudence et probité reconnues pourront en imposer. 10 postes d'officiers gardes du commerce sont alors créés avec pouvoir exclusif d'exécuter les contraintes par corps pour dette civile. Ceux-ci seront reçus avec serment par les lieutenants civils du Châtelet et informations prises sur leur vie et sur leurs mœurs. La signification des jugements continuera à être de la compétence des huissiers, mais là s'arrête leur rôle. Ils les remettent pour l'exécution à l'un des nouveaux officiers. Celle-ci, soigneusement organisée, pourra avoir lieu dans l'intérieur des maisons tous les jours, sauf les fériés, et toutes les heures, sauf la nuit, la partie condamnée étant ensuite conduite dans l'une des prisons de Paris, et c'est toujours le cas en usage. La réforme de Maupeou du statut des auxiliaires de la magistrature sera le complément de celle concernant le code de procédure. Dans la lutte que le chancelier a menée contre les parlements, avec les avocats et procureurs n'ont jamais été de son côté. Épousant chaque fois la cause des magistrats, il prenait le relais lorsque la puissance royale s'apesantissait sur les juges. Des réformes furent entreprises, mais toutes en leur faveur, pour autant qu'elles bénéficiaient aux justiciables, dont leur mandataire ne pouvait que se réjouir puisqu'elles profitaient directement à leur mandant. L'État, ne pouvant tolérer l'interruption du service de la justice, et parce que les représentants des partis se refusaient de se présenter à la barre, et puisqu'il existait un corps d'avocats aussi rompu aux affaires et désireux d'assurer une immédiate relève des défaillants, celui des avocats au Conseil, l'accès au Parlement leur fut immédiatement permis. Les avocats au Conseil pourront, dit le chancelier, plaider en notre cour de Parlement et y faire les écritures qui sont du ministère des avocats concurremment avec les avocats de notre cour de Parlement. La continuité de la justice assurée, il restait à régler de façon urgente le sort des procureurs du Parlement, ce qu'on appelle aujourd'hui les avoués. Le Parlement démembré, son ressort était partagé en 7 cours. Ils étaient 400. Leur nombre va alors se trouver démesurément trop important pour ce qui restait d'affaires dans la capitale. Une seule solution apparaissait, c'était bien sûr de réduire leur nombre à Paris en les incitant à s'installer en province, soit auprès des 6 conseils supérieurs, puisque les affaires n'allaient pas diminuer, mais simplement être déplacées et que leur ministère y serait donc utile. L'édit de février 1771 prévoyait donc la suppression de 300 offices à Paris, et cette suppression devenait effective que lorsqu'ils venaient à vacances par décès ou démission et offrait à ceux d'entre eux qui acceptaient de se décentraliser auprès de l'un des 6 nouveaux conseils supérieurs la possibilité d'y transférer leurs charges étant exonérés de droits. La chancellerie, quelques mois après, constata que personne n'avait déposé de requête pour s'exiler en province. Tous, inexorablement, entendaient demeurer dans la capitale et dans les 100 offices maintenus. Les 400 subsistaient donc. Il eut donc fallu attendre pour que l'édit de février reçoive pleine exécution le décès de 300 d'entre eux, ce qui risquait de durer longtemps. Il fallait donc revoir le problème, ce à quoi se refusait d'autant moins le chancelier, que les choses avaient changé au Parlement. Les procureurs avaient bien vite repris le chemin de la barre, mais si leur rôle était de postuler, et ils n'y manquèrent pas, la plaidoirie leur restait interdite. Or, les avocats au Conseil, qui étaient aussi présents, étaient peu familiers de cet art. La procédure devant les différents conseils étant écrite, le rôle consistait essentiellement en l'élaboration des requêtes et à la constitution des dossiers. Il va en être très différemment devant les juridictions judiciaires et surtout celles qui connaissaient des appels, la procédure orale étant la partie la plus importante du procès. En ce 18e siècle, l'éloquence du prétoire était portée à un très haut degré. Publiant sa plaidoirie à l'occasion de l'une de ses démêlées avec le duc d'Aiguillon, portée devant la grande chambre du Parlement, le fameux avocat qui était Linguet, qui avait assuré sa propre défense, avait tenu dans l'avertissement liminaire à rassurer le lecteur en écrivant « Le fond des plaidoiries de 1787 ayant été le même que celui des audiences de 1786, je ne donne de celle-ci, et même en partie, que la dernière, celle du 10 mars. » Et la partie de celle-ci recouvre 243 pages. Les confrères qui sont ici retrouveront leur conclusion récapitulative devant la Cour. Le chancelier va, à l'occasion du règlement de ce problème, avoir un de ses traits de génie, comme il en a eu déjà, qui, si sa décision avait eu la durée qui avait été perfectionnée et étendue, aurait fait avancer la justice de 2 siècles. À l'occasion de la suppression de 300 offices de procureurs, il établit au Parlement de Paris l'unification des professions judiciaires qui préfigure incroyablement la réforme de 1971, qui est presque reprise, en tout cas dans l'esprit. Je dis bien trait de génie car il ne s'agissait pas d'une mesure de circonstance, seul le moment l'était, celui où le barreau, absent, n'avait pas la possibilité de s'insurger, ce que n'aurait pas manqué de faire l'irréductible et puissante ordre des avocats, que l'on ne pouvait exiler comme de quelconque magistrat, dont l'opposition aux réformes se retranchait toujours devant le mot magique « indépendance ». Malgré sa solution fragmentaire, la décision prise était résolument réformiste et ce caractère n'échappa pas au chancelier. Il écrit « Les fonctions d'avocat et de procureur confondues autrefois n'ont été divisées que pour se procurer des secours dans les besoins publics. Et comme cette désunion a établi entre les deux États un partage inégal de l'honneur et de la considération qui doivent être attachés à l'un et à l'autre, elle a multiplié inutilement les ministres inférieurs de la justice et altéré par ce double emploi la proposition qui doit régner entre cette classe et les autres ordres de la société. » Obligé à veiller à l'économie des forces publiques et à la distribution utile de nos sujets dans les différentes professions, nous avons cru qu'il était nécessaire de ramener les choses à leur première simplicité et de réunir les fonctions qui s'anoblissent l'une par l'autre et dont la séparation est toujours onéreuse à nos peuples. Nous n'avons cependant pas voulu fermer le barreau à ceux que leur goût déterminerait et consacrer librement leur talent à défendre l'honneur, la vie et les propriétés de nos sujets. Nous ferons même un devoir de les encourager et de récompenser leurs travaux en appelant aux fonctions de la magistrature ceux qui, dans cette carrière, se seront distingués par leur succès et leur désintéressement. Tout ça est repris aujourd'hui. Au mois de juin, l'unification de la profession était une chose réalisée. Il n'y avait plus devant les conseillers au Parlement que les avocats jouissant des mêmes prérogatives et les 100 nouveaux avocats ayant été désignés dans l'édit de création. L'accès à la profession était strictement réglementé. Nul ne pouvait postuler à un office s'il n'avait pas été reçu avocat ou s'il n'avait pas travaillé pendant 6 années chez un avocat ou un ancien procureur, ce qui permettait pratiquement de recevoir les clercs de la basoche. Il doit être noté toutefois que quel que pût être le ressentiment du chancelier à l'égard du barreau pour sa conduite lors de sa réforme de la magistrature, il n'a jamais touché à ses prérogatives. Nous avons vu qu'en unifiant les professions judiciaires, il a expressément déclaré ne rien innover en ce qui concerne les autres avocats, ni ne leur a imposé l'entrée dans leur ordre des nouveaux avocats du Parlement. Respecter les droits de la défense n'équivalait pas à en tolérer les abus. Les écrits rédigés à l'occasion des procès constituaient un champ clos où tous les coups étaient permis, même ceux entièrement étrangers au litige. Même ceux atteignant des tiers, qu'il n'y avait rien à y faire, avec la circonstance aggravante que ces écrits étaient imprimés, répandus à profusion dans le public. En toute sécurité sur le plan pénal, à cause de l'impunité reconnue au droit de la défense, ou que matériel, parce que l'imprimé, à l'occasion d'un procès, ils entraient dans la masse d'éléphants. À cette époque où tout est prétexte à pamphlets, contre tout, des mesures de modération apparaissaient nécessaires, sans toutefois qu'elles puissent servir de prétexte à une atteinte à des droits qui étaient partie intégrante des principes généraux sur lesquels repose notre civilisation. Ces mesures de modération ont été l'une des ultimes qu'aura prises le chancelier de Maupeou. Louis XV mourut le 10 mai 1774. Un mois après, Louis XVI admettait le Parlement et complimentait Maupeou au château de la Muette. Le roi lui dit « Cela est très beau. Voilà notre vrai droit public. Je suis enchanté, monsieur le chancelier. » Mais le comte de Maurepas, devenu premier ministre, et la reine, Marie-Antoinette, poussée par des princes, allaient bientôt renverser toutes les espérances de Maupeou. Louis XVI résista pendant quelques mois. Il se rendit enfin. Le chancelier fut exilé en août 1774, l'ancien parlement rappelé en novembre, et il ne resta rien de l'œuvre de Maupeou. Exilé de la cour, Maupeou viva dans l'oubli de la retraite la plus absolue jusqu'en 1789. Après la convocation des États généraux, il crut devoir rompre le silence qu'il avait gardé jusqu'alors et adresser à Louis XVI un mémoire où il exposa tout un plan se rattachant à l'organisation judiciaire que les circonstances, disait-il, ne lui avaient pas permis de réaliser. On voit apparaître pour la première fois dans ce document, au sommet du pouvoir judiciaire, un tribunal suprême dont les lumières pouvaient commander le respect aux autres tribunaux qui les rappelaient à la lettre des lois quand ils s'en écartaient ou qui leur en développaient l'esprit et les motifs. Un autre conseil aurait été réservé pour les matières propres à l'administration. À ce tribunal eût été porté tout le contentieux. Maupeou aurait voulu aussi augmenter le nombre des tribunaux d'appel et maintenir dans les limites fixes et à peu près égales les tribunaux inférieurs. Dans cette trop rapide analyse, vous avez pu, Monsieur le Président, Messieurs, reconnaître cependant une esquisse de notre organisation actuelle avec son Conseil d'État, sa Cour de cassation, ses cours d'appel et ses tribunaux de grande instance et d'instance. On a dit que le mérite de cette réforme revenait moins au chancelier de Maupeou qu'à Lebrun, son ancien secrétaire, son principal collaborateur, devenu consul de l'an 8, archi-chancelier et duc de Plaisance. Pendant près d'un siècle, ce mémoire est resté ignoré. Louis XVI l'avait fait déposer avec les pièces qui y sont annexées à la Bibliothèque royale. Ce mémoire a été édité pour la première fois par M. Jules Flamirmont en 1877. Il en a rendu compte dans une communication lue ici même à l'Académie des sciences morales et politiques, laquelle a été éditée en novembre et décembre 1879 par M. Charles Verger, membre de l'Institut, sous la direction de M. Mignet, secrétaire perpétuel d'alors de votre académie. J'ai vu son buste et dans l'entrée de votre institut. L'avocat général Bloch a considéré dans son discours prononcé à l'occasion de l'audience solennelle de rentrée du 17 octobre 1887 de la Cour d'appel de Paris qu'il s'agissait d'une découverte historique. Il souligne que l'enseignement à tirer de la révolution judiciaire de 1771 est le suivant. La justice n'est indépendante, elle n'a son existence vraiment assurée que lorsque, renfermée dans les limites certaines, elle s'exerce au nom d'un gouvernement qui a pour principe et pour base la liberté. La réforme de Maupeou était bonne en elle-même. Abolir la vénalité des charges en remboursant les titulaires, élever la magistrature au-dessus de tout soupçon en proclamant la gratuité de la justice, assurer son indépendance en la rendant inamovible, resserrer le ressort trop étendu du Parlement de Paris, affranchir la justice des entraves qui paralysaient sa marche, étaient d'excellentes mesures. La postérité resta sourde à l'appel de Maupeou. Oblivis cor, eos oblivisendus et illis, aurait-il dit. Je les oublierai et ils m'oublieront aussi. Le troisième consul, Lebrun, duc de Plaisance, a écrit à son propos dans ses mémoires « Ce n'était ni un l'hôpital, ni un Daguesso. Nous croyons être plus près de la vérité historique en disant « Il restera Maupeou ».
Merci d'avoir évoqué cette œuvre considérable de Maupeou qui a été critiquée dès son temps déjà d'une manière atroce et qui a fini par être oubliée bien qu'elle soit un peu la mère de beaucoup de nos réformes. Ce qui est étrange, c'est qu'il avait trouvé un système moderne et que l'influence de l'opinion fut telle que non seulement cela disparut, mais que le retour des parlementaires j'en ai la preuve pour une région que je connais un peu sur le plan historique, c'est la Franche-Comté, ils furent fêtés comme les pères de la patrie. Il y eut des cortèges dans les rues, on illumina quand les parlementaires revinrent pour s'apercevoir 2 ans après qu'ils n'étaient absolument pas les pères de la patrie, mais qu'ils ne travaillaient que pour leurs propres intérêts ou pour leurs privilèges. Ce qui fait qu'à ce moment-là, là, on était mûr pour une révolution judiciaire qui fut catastrophique, et puis on a reconstruit quelque chose sous le consulat et sous l'Empire comme on l'a pu. Je pense que Maupeou était un grand homme, mais les magistrats d'Ancien Régime avaient une particularité qui a disparu depuis, heureusement. C'était un art de la vengeance qui était subtil et profond. Et c'est ainsi que les parlementaires qui avaient participé au Parlement Maupeou ont été épurés avec une science digne d'époques plus récentes, et que Linguet, le grand avocat qui a été radié du barreau, il fit appel devant le Parlement qui déclara son appel irrecevable, puisque l'ordre se gouvernait par lui-même à l'époque, maintenant plus beaucoup. Il est placé sous le contrôle sage des cours d'appel qui empêchent les débordements excessifs et qui créent une unité de jurisprudence que je me suis forcé de rassembler dans cet immortel ouvrage que Marc a bien voulu citer, c'est-à-dire les règles de la profession d'avocat. Maintenant, François Théré va nous parler de ce code de 1800, d'un code à l'autre, l'immobilisme.
Je vais essayer de présenter quelques observations après la belle intervention et les éloges que notre président accorde à Maupeou. Maupeou, d'après ce que l'on sait aussi, et je cite quelques doctrines sur ce personnage qui fit une très bonne réforme, mais qui ne fut pas suivie ensuite, le caractère suivant, je cite, « Personnage bilieux, rompu aux intrigues, connaisseur d'âme, psychologue désabusé, arrogant selon Louis XVI qui ne lui rendit pas justice, médiocre juriste, a-t-on dit, il avait prouvé que pour être homme d'État véritable, il n'est pas indispensable d'être technicien, mais qu'il suffit parfois d'avoir des vues nettes et d'être capable de se déterminer plus promptement. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir dit que j'étais cruel. J'ai pas voulu vous décevoir, mais pour juger les êtres tels qu'ils sont, il n'est pas mauvais quand même de prendre les avis des uns et des autres. On me demande 2 ans après la commémoration du Code civil, qui a donné lieu à tant de manifestations, c'était pas une commémoration, c'est une célébration d'un bicentenaire, de parler aujourd'hui du code de procédure civile de 1806. Et le grand plaisir que l'on peut avoir à le faire, c'est que pour une fois, c'est une commémoration d'un navet, de quelque chose de médiocre, et que par conséquent, 2 siècles après, il est peut-être plus facile de s'acharner, si l'on a une nature cruelle, sur les défauts d'un code qui est l'expression même du départ de Napoléon vers les armées. Il n'avait pas eu le temps beaucoup de s'occuper du code de procédure civile. Et alors je voudrais simplement, dans les temps qui me sont impartis, essayer de voir l'histoire de ce code, puis les leçons de cette histoire. Si on essaye d'envisager les phases, les étapes successives de l'histoire de ce code, il faut bien constater la nécessité de remonter un peu plus haut dans l'histoire que la date de 1806. Et je remonterai un peu dans l'histoire, quitte à gagner du temps sur la fin de la période qui m'est impartie, pour ne pas aller jusqu'en 1975, je m'arrêterai en 1965. Quoi qu'il en soit, si l'on remonte dans l'histoire de la procédure civile, des diverses manifestations sont quand même allées jusqu'à Justinien, je m'en tiendrai à la décision que prend Saint-Louis au retour d'une des deux croisades à laquelle il avait participé, expliquant l'échec de cette croisade et ses inconvénients, ses difficultés par le fait, parmi d'autres considérations qu'il allait chercher dans cette histoire et cette philosophie de l'histoire, dans l'échec de cette croisade parce que la justice en France n'était pas bien rendue. Et dans cette première période de l'évolution historique, on s'aperçoit que la procédure tient une place considérable dans la préoccupation du monarque. C'est pas le droit substantiel qu'il veut réformer. C'est essentiellement de chasser le mauvais droit. Et pour chasser le mauvais droit, dit-il, il faut chasser aussi les mauvaises coutumes. Et cela à travers quoi ? À travers, il l'écrit expressément, à travers les procédures. Donc, ce qui apparaît dans la première période, celle du XIIIe siècle, c'est que la réforme de la procédure est une réforme destinée et décidée pour combattre le droit injuste. C'est par la procédure que l'on combat le droit injuste, ce n'est pas par le droit substantiel. Et d'ailleurs, il le fait en consultant les États provinciaux, les parlements, pour essayer de trouver, à travers leurs expériences et leurs suggestions, les moyens de changer, les moyens d'un retour à la justice, qui pouvait donc, d'ailleurs, dans d'autres sociétés, être l'explication de l'action des prophètes. La suite, alors, c'est le XVe et le XVIe siècle. La réforme de la procédure est encore à l'ordre du jour. Il ne s'agit plus, avec l'ordonnance de Bonty-les-Tours, et d'autres ordonnances de réformer, nécessairement de revenir à un droit juste par la procédure, mais de combattre le droit incertain. L'injuste, puis l'incertain. Et cela est écrit dans l'ordonnance de Bonty-les-Tours, il s'agit de réformer le fait de la justice et la réformation de ses abus. Et la rédaction des coutumes qui va venir dans la suite, la première puis la seconde rédaction des coutumes, ne sont pas autre chose que la prolongation d'une amélioration des coutumes. L'amélioration des coutumes s'accompagne d'ailleurs de leur réformation. C'est même le roi qui donne force légale aux coutumes rédigées. L'ordonnance d'Orléans, l'ordonnance de Moulins, l'ordonnance de Villers-Cotterêts, c'est la troisième vague de réforme de la procédure, après avoir voulu qu'elle soit juste, après avoir voulu qu'elle soit certaine, on a voulu qu'elle ne soit plus contradictoire. Et par conséquent, c'est toujours à travers le combat contre des défauts de la procédure que l'amélioration jusqu'à cette époque-là est toujours en cause. Mais voyons un peu les ordonnances de Louis XIV. Elles sont quand même frappantes aussi, car la première d'entre elles, si je me borne aux quatre grandes ordonnances, la première ordonnance est justement celle de 1667. Le droit Louis XIV, ça va être le code Louis, dira-t-on, Louis XIV ne s'attaque pas à l'établissement, à la réformation du droit civil. C'est la procédure civile qui est en cause. Et quand en 1670, c'est la procédure criminelle, c'est encore autre chose que le droit substantiel, que le droit pénal qui est en cause. Les deux premières ordonnances de Louis XIV sont des ordonnances sur la procédure. Et c'est toujours le même esprit qui se prolonge, même au XVIIe siècle. Car enfin, les deux autres ordonnances, l'ordonnance sur le commerce de 1667 et l'ordonnance sur la marine de 1681, ne se situent quand même pas au cœur du droit privé de la France. À telle enseigne, d'ailleurs, qu'on voit bien que ces réformes sont des réformes de droit public. Ce qui est affirmé au XVIIIe siècle sera vrai aussi, l'est déjà depuis le XVIIe siècle. La procédure s'est développée à l'ombre du droit public. Et c'est seulement, au fond, à partir du XVIIIe siècle, que l'idée de réforme de la procédure prend une autre figure. Prend une autre figure parce que les auteurs du XVIIIe siècle ou bien connaissaient pas la procédure ou bien ont été guillotinés. C'est les vrais, les purs. Mais il est bien vrai que c'est l'idée d'une codification, cette fois d'une unification des procédures qui est à l'ordre du jour dans tout le déroulement du XVIIIe siècle. Alors la Révolution, finalement, que va-t-elle faire ? Les cahiers de doléances comportaient quelques critiques relatives aux lenteurs de la justice, au coût de la justice et aux complexités de la justice. C'était toujours la même chose, moi qui n'ai rien inventé. La complainte sur la procédure dure toujours. Et il est intéressant de voir que les réactions diverses des magistrats n'ont pas été forcément en la matière des réactions, sauf à l'affaire Maupeou, mais quant à la procédure, n'ont pas été tellement favorables à ce maintien d'une procédure lourde, formaliste et lente. Dans toute réforme législative, dans tout effort de réforme législative, il y a ceux qui font les textes et puis ceux qui ne les font pas. Et ceux qui ne les font pas, en général, sont mécontents contre ceux qui les font. C'est normal, ils voudraient les faire. Et par conséquent, les voilà en courroux. Mais dans l'affaire de l'ordonnance de 1667, il y a plutôt un combat des anciens et des modernes. Car il y a les anciens qui ne voulaient pas trop changer, et les modernes, pour une fois, c'est justement Lamoignon qui était le moderne dans l'affaire. Mais Pusseur et Colbert lui ont coupé les ailes. Et c'est pourquoi l'ordonnance de 1667 n'est pas meilleure que les ordonnances pour la rénovation de la justice dans le royaume qu'il avait précédemment emportées. Alors, que voit-on ? Certaines réformes, bien sûr, mais un développement qui, au XVIIIe siècle, aboutit quand même à une dissociation des procédures publiques et orales, en général, mais des procédures aussi secrètes et écrites lorsque l'affaire est compliquée. Lorsqu'il y a ce qu'on appelle l'appointement, qui fait donner lieu à des débats et à des discussions, des développements, des exposés de Potier, dont je cite un exemple. L'appointement est à l'origine de notre procédure par écrit, c'est-à-dire l'appointement concernant les affaires compliquées, ce qu'on dirait soumises aujourd'hui à une mise en état. L'appointement, c'est peut-être une sorte de mise en état dans la réforme issue des textes de 1965 et 1975. Et Potier ajoute, cette procédure est justement décriée, sa longueur, sa cherté excessive, les épices qui sont plus importantes, même qui sont là pour calculer au fond, pour les sociologues d'aujourd'hui, le taux de processivité qui peut exister à l'époque. Et c'est parce que les autres juges ne se trouvent pas, dit Potier. Il en sait quelque chose quand même. Il n'est pas exclu qu'il soit aussi magistrat de son esprit et de son métier. Et que les juges ne se trouvent pas assez instruits pour juger la cause parce qu'elle est de difficile discussion. Alors il y a les juges qui jugent les affaires de difficile discussion et puis il y a les autres. Je passerai vite alors maintenant sur la période révolutionnaire. Je crois que le mot de période intermédiaire qui traîne dans tous les manuels est probablement un adjectif fallacieux. Car sur ce point en tout cas, en ce qui concerne la procédure, il n'y a pas eu de grands changements. Il y a eu d'énormes changements, mais une continuité dans la discontinuité. Car s'il est bon
qu'à partir de la Révolution, il était possible, il était obligatoire de motiver les décisions de justice. Pour le reste, la Constituante en 1790 annonce la réforme nécessaire, l'élaboration d'un code de procédure civile, tout en ajoutant aussitôt qu'on ne pourra pas pour l'instant y procéder, qu'il faudra attendre jusqu'à cette date en appliquant les textes de l'ordonnance de 1667. Alors la Convention a bousculé le paysage. La Constitution de 1793 ne parle plus de juge, mais d'arbitre public qui statue sur défense verbale ou sur simple mémoire, sans procédure et sans frais. Le décret du 3 Brumaire en 2 qui supprime les avoués. Mais les avoués sont restés. Ils sont irréductibles à l'époque, tout au moins, comme on dirait des avoués d'appel. Aujourd'hui, n'est-ce pas? Ils sont irréductibles et la seule différence qui se passe entre l'an 2 et l'an 8, qui va avoir rétabli les avoués, c'est qu'ils restent sans tarif et que par conséquent, ayant été supprimés, ils font fortune entre l'an 2 et l'an 8 qui rétablit un tarif des avoués. Et c'est une procédure sans aucun frais sur défense verbale, tout cela est abandonné en l'an 8, fini, allons-y, au tarif. L'arrêté consulaire du 18 Fructidor en 8 prescrit d'observer jusqu'à la prolongation d'un nouveau code, on est en l'an 8, on est en 1800, d'observer l'ordonnance de 1667. L'ordonnance de 1667, comme le code civil cambodgien malgré Pol Pot, a survécu à toutes les mésaventures pour réapparaître à la sortie du tunnel tel qu'il était antérieurement. Bien sûr, il y eut des apports intéressants. Le directoire a envisagé la question, mais il n'y a pas eu quatre essais, comme pour les essais de Cambacérès. Et finalement, c'est l'ordonnance de 1667 qui a servi dans un premier temps de modèle. Pas de bons juristes pour le préparer. Ceux qui étaient bons ont été guillotinés, bouchés d'argis. Et d'autres étaient bons, le seul qui était de qualité, c'était Pigeot. Et il n'a pas pu faire grand-chose pour moderniser la procédure, de sorte que lorsqu'on examine le texte, on voit que finalement c'était la réaction contre les excès de la loi de Brumaire en 2 qui explique le fait qu'on n'ait rien voulu changer. Il en résulta que lorsque, je cite un auteur qui a été honoré par l'Académie des sciences morales, au milieu du 19e siècle, car l'Académie des sciences morales et politiques avait mis à l'ordre du jour en 1852 la question de la réforme de la procédure civile. Il y a eu un concours, il y a eu un lauréat qui s'appelait Bordeaux, qui était un bâtonnier du barreau d'Évreux, qui a écrit un ouvrage remarquable dans lequel on lit, et pour évoquer cette période, le code de procédure civile. Il en résulta que lorsqu'on voulut remédier aux effets désastreux de cette justice informe, celle de l'an 2, le dégoût des innovations radicales disposa les esprits à un retour trop complet vers un ancien ordre de choses qui devait être modifié pour être mis en rapport avec notre organisation judiciaire. Justice trop longue, justice trop chère, justice trop compliquée. Les trois en tiennent que Rabelais déjà condamnait. Pourquoi faisait-il dire au juge Bridois? Pourquoi les formules, les formes de la procédure sont-elles si lourdes? Et pourquoi sont-elles si lourdes alors que vous jugez à la courte paille, aux décisions? Mais répondait Rabelais, plutôt répondait le juge, c'est parce que cela permet au juge de porter des dossiers considérables, très lourds, ce qui permet à ces juges d'exercer leurs muscles. Et par conséquent, il fallait voir dans les formes lourdes de la procédure ce qui correspond aujourd'hui aux activités des établissements de remise en forme, lesquels, dans le midi de la France, favorisent le blanchiment de l'argent sale. Quoi qu'il en soit, et ceci étant à peine évoqué, on voit bien que la discussion de ce code, écrit Bordeaux,
La discussion de ce code fut en général moins soignée et moins approfondie au Conseil d'État que fut celle du Code civil. Le Conseil d'État, là aussi, n'échappe pas à la critique. Pourquoi ? Parce que pour le Conseil d'État, la matière était aride. Oh, c'est une des plus belles qui soit, le combat judiciaire, le duel, les procédures, l'audience éventuelle, etc. Et d'ajouter, la matière était aride, la plupart des membres ne la possédaient pas parfaitement. Je n'oserais pas dire cela du Conseil d'État aujourd'hui, surtout devant Monsieur le directeur des affaires civiles, mais là ils n'étaient pas bons. Hein. Ils n'étaient pas bons, et surtout, les meilleurs avaient été guillotinés, je le répète. Le Conseil d'État, écrit un auteur estimé, a été trop souvent sous l'influence de ce préjugé vulgaire qui regarde la procédure comme une affaire de pure pratique. Il a trop négligé les lumières que pouvait lui fournir l'ancienne doctrine ou même la simple raison pour s'abandonner à une routine aveugle. Voilà l'histoire de ce code. Je m'en voudrais d'en dire davantage, mais c'est à travers cette histoire que l'on peut comprendre aujourd'hui ce que peut être l'actualité d'une réflexion qui pourrait être une réflexion de méta-procédure, d'aller au-delà des règles de la procédure, tout comme les internationalistes ont été, grâce à Martin, au-delà de la réflexion sur les pures règles des conflits de loi. Si l'on recherche donc la fériété, il faut la voir aussi dans l'absence de théorie philosophique sur le procès. Et la suite va montrer que, malgré quelques réformes importantes au cours du XIXe siècle, notamment en 1851, la réforme de l'aide judiciaire, qui est importante, mais qui n'affecte pas directement la procédure civile, malgré l'existence d'un certain nombre de réformes qui se sont ajoutées au fil des années, mais qui souvent ont été situées en dehors du code de procédure civile. On ne trouve pas au XIXe siècle des efforts véritables. Et pourtant, la question est à l'ordre du jour. À diverses réformes, à diverses époques de ce XIXe siècle, le besoin de réformer la procédure civile est affirmé. On se réfère notamment à des opinions on parle au XIXe siècle des travaux de l'abbé de Saint-Pierre. L'abbé de Saint-Pierre avait écrit au XVIIIe siècle un mémoire pour diminuer le nombre des procès. C'est le nombre des procès qui, à l'époque, devient essentiel. Quant à Mirabeau, il affirme qu'il ne faut pas que la justice soit trop simple, trop simplifiée. Car enfin, écrit-il, ces formes que tant de gens croient sur parole, la sauvegarde des citoyens, tendent à leur but dans un sens opposé à l'intention des faiseurs de règlement et forcent, ou du moins doivent forcer à la paix, par les incommodités de la procédure. Et au fond, c'est ce que l'on disait tout à l'heure, ce que l'on évoquait tout à l'heure, à savoir que M. Rochester l'évoquait avec grand talent. Est-ce que la procédure doit être faite uniquement pour accueillir les procès ? Est-ce qu'elle doit être une institution d'accueil et uniquement d'accueil ? Ou doit-elle aussi être une institution de dissuasion ? Je crois que cette fonction de dissuasion attachée à la justice n'est pas forcément négligeable, critiquable, injuste ou liberticide. Mais si on veut en comprendre exactement la signification, c'est à travers la procédure que l'on peut interroger le droit substantiel et le droit tout court. Pourquoi vouloir que le droit ne soit qu'irénique ? Qu'il soit là comme instrument de paix entre les hommes. Mais il y a tout un courant philosophique qui démontre bien que le droit est polémogène, qu'il est là aussi pour introduire le combat, et que par conséquent, il y a là la double considération qui permet de s'interroger en la matière. Quoi qu'il en soit, je passe sur les détails. Le nombre des procès, on parle au XIXe siècle d'une dette flottante. Ah,
mais c'est intéressant. La dette judiciaire flottante, au cours du 19e siècle, je crois que des économistes, non absents ici comme d'habitude lorsqu'il s'agit de droit, pourraient nous apporter des informations utiles sur ce développement. Vous voyez, cruauté. L'arriéré de cette dette flottante, écrit-on en 1858, comme on l'a ingénieusement appelé, voici donc ce qu'il s'agit de diminuer. Les circulaires du garde des Sceaux, les mercuriales des procureurs généraux ont souvent stimulé dans ces dernières activités, dans ces dernières manifestations d'activité des tribunaux. Je vois que le temps passe et je vais donc passer plus rapidement sur la fin du 10e. Des commissions de réforme. Sous la Troisième République, dans les 20 dernières années de la, des 20 premières années, 25 premières années de la Troisième République sont constituées, sont instituées. Elles avaient même été instituées avant 1848, avant la Révolution. Un projet était excellent, encore une sorte de projet beaucoup, mais la Révolution de 1848 balaye tout cela, les projets sont abandonnés. On attend 25 ans, on prévoit sous l'égide, sous l'influence du père de l'amiral Darlan. À la fin du 19e siècle, qui était garde des Sceaux, il était notaire au départ, on prévoit un projet de réforme du code de procédure civile. Ah, malheur pour le père de l'amiral Darlan, qui se trouve indirectement ou directement un petit peu mis en cause à propos de l'affaire Dreyfus, qui a fait entraîner l'abandon de ce projet de réforme de la procédure. L'amiral n'a pas suivi la carrière de son père. Et finalement, c'est sous la Troisième République finissante que la réforme de la procédure civile est envisagée et pour partie réalisée. Il faut dire que cela vient d'une certaine manière curieuse. C'est le gouvernement Laval, 1935, plein pouvoir accordé au gouvernement Laval pour agir pour la défense du franc. C'était la loi de plein pouvoir, la défense du franc. Moyennant quoi, il en résulte un décret-loi du 30 octobre 1935 instituant le juge chargé de suivre la procédure. Il y a une philosophie à dégager, mais ça je laisse aux soins des historiens le problème qui est en cause. Comment un juge chargé de suivre la procédure peut contribuer par son existence et ses fonctions à la défense du franc? Vous voyez que le respect des lois de plein pouvoir peut être dans une certaine mesure l'occasion de certaines fantaisies. Juge chargé de suivre la procédure, expression ridicule. Car on le voit courant après la procédure et ne la rattrapant jamais. Juge chargé sur la procédure, d'ailleurs, qui se voyait octroyer certains pouvoirs pour action sur le rythme de la procédure, mais au total, laissant quand même cette procédure entre les mains des auxiliaires des parties, qu'il s'agisse du fait, qu'il s'agisse du droit, qu'il s'agisse du rythme des procès, des trois problèmes. Alors ensuite, c'est la loi de plein pouvoir. Une autre loi de plein pouvoir prévoit, entraîne une réforme de la saisie immobilière en 1938, et puis vient l'époque de guerre. Que va-t-on faire, le gouvernement de Vichy? Eh bien, le gouvernement de Vichy va reprendre. Souvent, on s'emploie à vider les tiroirs des ministères quand on est tranquille sans parlement. Hein. Allez, on vide, entreprise de déménagement, direction du journal officiel. Et même, point paroxystique, le 15 juillet 1944. Une loi du 15 juillet 1944 réforme les règles sur la chambre du conseil. Quand même, c'est fascinant. Le débarquement en Normandie avait eu lieu le 6 juin. La percée d'Avranches produisait. Paris allait être libérée le 26 août 1944. Et la procédure continuait son cours. La loi du 15 juillet 1944, conservée d'ailleurs ensuite, sur la chambre du conseil. Il y avait d'autres conseils peut-être à retenir, mais c'est toute l'histoire de la procédure civile en France, dans l'intervalle. En 1871, la France avait perdu l'Alsace et la Moselle.
Oh là, Bismarck était là. Et la réforme de la procédure civile, dans les trois départements annexés, n'a pas tardé. Car le sieur Bismarck a commencé par supprimer les avoués. Et ça a été très vite. Et les avoués y ont moins profité que les avoués de vieille France, lorsque, en 1971, ils ont été fusionnés avec les avocats. Ça dépend de Paris, province, etc. Et puis surtout, il y a eu une réforme de la procédure civile en Alsace et en Moselle, en 1878, un civil processordnung, ZPO, qui est demeuré en vigueur jusqu'à une époque très récente. Les réformes allaient vite, à la Bismarck. Mais Bismarck, en procédure française, on ne l'a pas connu, on ne lui aurait pas réservé peut-être quand même le sort de Maup. Alors, voilà l'histoire, la Ve République démarre, 1958, oui, en 1949, on supprime, on allège la petite conciliation devant les tribunaux. Au début de la Ve République, et je vais m'arrêter là dans mon récit, c'est au fond, dans le début de la Ve République, deux choses, deux réformes. L'une sur les conflits de compétences, qui aménage une procédure assez particulière de contredit qui a fait long feu, et puis des règles sur le caractère contradictoire de l'expertise dans les mesures d'instruction. Je m'arrête là. Mais ce que je voudrais, c'est simplement, après avoir abusé de votre patience, tirer peut-être quelques conclusions dans une seconde partie, quand même, les leçons de l'histoire. Les leçons de l'histoire de la procédure, au fond, depuis Saint-Louis et jusqu'à maintenant, pas forcément maintenant, je laisserai à l'orfèvre, l'ancien ministre Jean Foyer, le soin de le montrer. Mais qu'est-ce que je retiens de cette histoire ? Quatre leçons. Quatre leçons de l'histoire de la procédure civile qui relie notre histoire et qui fait regretter que des historiens ne nous aient pas fourni, depuis Adhémar Esmin, une histoire de la procédure civile. Parce que toujours braquer le regard sur l'histoire de la procédure pénale à ces données de la procédure civile procédérée, c'est avancer une vision insuffisante, car s'il est bien une matière où l'on retrouve une continuité de l'histoire, c'est bien à travers cette expression de procédure. Alors les quatre leçons de l'histoire, les voilà. La première histoire, c'est qu'il est plus facile de changer le droit substantiel que le droit processuel. Cela n'est pas douteux, et d'ailleurs, toutes les fois qu'au cours de l'histoire, on a voulu changer le droit toutes les fois qu'il y a eu quand même des changements du droit processuel au cours de l'histoire, ce ne fut jamais par un processus démocratique. Que ce soit les ordonnances des rois de France, que ce soit le code de procédure civile, que ce soit les décrets-lois, que ce soit le domaine réglementaire, c'est trop important pour être soumis au pouvoir législatif. Et cette première considération mène à une seconde conclusion. C'est que lorsqu'il s'agit des règles de procédure, les professionnels sont davantage concernés. Le droit du divorce, le droit, toutes ces règles du droit substantiel, c'est pour un jour quand on y sera soumis. Mais le droit processuel, cela concerne beaucoup de professions. Et indépendamment d'ailleurs du corporatisme judiciaire, il y a d'autres corporatismes, indépendamment de cela, il faut bien voir que lorsqu'on change la procédure, on change beaucoup de choses dans la vie professionnelle. Lorsque le législateur, par une loi, le 14 octobre 1964, a voulu alléger la procédure des tutelles, ce fut une bonne réforme, monsieur le garde des Sceaux, mais seulement cette réforme dérangea beaucoup les avoués de premier instant, car il était évident que les avoués de première instance allaient souffrir de l'allègement des procédures judiciaires, de vente judiciaire, de partage judiciaire, de tout cela. Et ceci n'était pas indifférent à ces professionnels. Moyennant quoi, l'allègement des procédures n'a pas été indifférente aux notaires, car ce que perdaient les avoués, les notaires en partie l'ont gagné, mais ils l'ont gagné qu'à 50%, si on peut dire. Et puis une petite augmentation de tarifs désavoués a calmé les déceptions des représentants de cela. Mais si l'on voit ce qui se passe, la persistance du droit local d'Alsace et de Lorraine a été due justement en procédure au fait que les avocats des deux départements d'Alsace et de Moselle étaient habitués à leur procédure, qu'ils ne voulaient pas en changer, qu'il a fallu attendre deux générations pour que la réforme puisse être apportée à cette, dans le sens de l'unification. Mais cette réforme a été unifiée, l'unification des procédures est venue par le fait que le droit local s'est aligné sur le droit de vieille France, comme on dit là-bas, parce que le droit de vieille France en matière de procédure avait connu un renouveau considérable. C'est toujours dans ce sens que l'unification se fait, car jamais elle ne s'est faite dans l'autre sens. Quand le droit de la publicité foncière a été amélioré en 1955, on ne s'est pas aligné quand même sur le système du juge du livre foncier. Quand les réformes de la faillite, réforme du 20 mai 1965, du 23 janvier, du 13 juillet 1967, du 23 janvier 1985, et maintenant la nouvelle ont été réalisées. C'est seulement progressivement que le droit de vieille France s'est introduit en Alsace. On pourra en dire beaucoup des associations. Ce sont les professionnels. S'il y a des juges du livre foncier en vieille France et des conservateurs des hypothèques en Alsace, les juges. Et puis
le procès peut-être
des juges,
le signe même de la relation des hypothèques,
c'est aussi parce que les uns relèvent du ministère de la justice et les autres du ministère des finances, et que par conséquent les rivalités entre les bureaux peuvent être de nature à entretenir des dualités comme entre les commissaires
adversaires et leurs controverses. Puis j'en passe.
Et c'est cette image la qui est l'ordre du jour aussi des réflexions sur la procédure civile et sa réforme. C'est pourquoi elle est essentielle malgré le caractère alambiqué de cette terminologie.
Le procès est la chose.
Est-ce que c'est vraiment à travers un triangle,
isocèle, ne soit pas la chose
qu'il faut imaginer
pénale,
en preuve administrative, comme si
mais
le juge était à l'égard de chacune
de des parties, la chose
dans
des parties, la chose des
avocats
ou de leurs mandataires.
À l'égard de l'autre,
il y a là toute une réflexion
que c'est plutôt la procédure et sa philosophie,
un triangle équilatéral même, qui donc donne plus de hauteur au juge par rapport à ces deux contradicteurs, à ces deux litigants, comme on dit aussi, à ces deux justiciables en procès. C'est sur cette image difficile, mais sur les réponses, justement, que le nouveau code de procédure civile, dont les linéaments étaient déjà inscrits en 1965, a pu apporter des réformes. Pourquoi vouloir imposer le principe de contradiction au juge? Ce n'est pas à lui qu'il s'agit d'assurer la contradiction, et c'est sur cette réflexion d'avenir que probablement dans l'évolution nécessairement internationale des problèmes, que je voudrais laisser maintenant la parole, après avoir été trop long, à mon successeur.
Et merci à François Théré d'avoir été aussi profond, cruel, voyant bien les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire les intérêts matériels qui sortent ici, empêchant les grandes réformes. Derrière les grands problèmes d'idées qu'on trouve en droit pénal et en droit civil, il y a des toutes petites choses, des petites anicroches qui peuvent tout changer. Je pense que la seule question qui se pose, c'est de savoir à qui est le procès. Les juges, par une tradition qui commence à Perrin d'Andin et qui se termine avec la magistrature, aimeraient bien devenir propriétaires du procès civil et le diriger à la manière dont un colonel organise le défilé du régiment. Les auxiliaires de justice, et qui reçoivent les parties et qui en sont les intermédiaires nécessaires, pensent que le procès est à eux et que c'est à eux de le diriger. Finalement, le seul point sur lequel tout le monde est d'accord, c'est que le procès n'appartient jamais aux parties. Depuis la grande incertitude que nous a donnée François Terray, il y a de nouveau, puisque Jean Fouillé, ancien garde des Sceaux, membre de cette académie, a créé une procédure nouvelle qui est pleine de succès. Et il a choisi comme thème et comme titre de sa communication ce mot important, « confession d'un assassin impénitent ». Vous avez la parole, monsieur le garde des Sceaux.
Dois-je supplier l'auditoire d'excuser le choix que j'ai fait d'un titre un peu provocateur en me présentant comme un assassin impénitent du code de procédure civile. Effectivement, je suis là un peu en tant que chef d'une bande qui a mis à mort le code de 1806 en proposant de lui en substituer un nouveau. Ce code de 1806, on nous a tout à l'heure dit qu'il était une réécriture de l'ordonnance d'avril 1667. Je le défendrai un peu en disant que le style législatif s'était manifestement amélioré de 1667 à 1806 et que finalement l'expérience révolutionnaire y était pour quelque chose, car les textes de l'époque des assemblées révolutionnaires sont burinés, sont beaucoup mieux rédigés, plus fermes que ne l'était la législation de l'ancien droit, voulons que, etc., etc. Et la procédure civile s'en est donc ressentie. Dans l'ordonnance de 1567, il y avait des dispositions qui d'ailleurs, curieusement, n'ont pas été reprises. Bon, pas curieusement, n'ont pas été reprises dans le code de procédure civile, parce qu'elles s'étaient glissées ailleurs. Il y avait, dans l'ordonnance de 1667, un titre premier, intitulé « De l'observation des ordonnances », et dont le contenu se retrouve modernisé, adapté aux modifications du droit public, dans le titre préliminaire du code civil. Puis, le code de procédure civile a été dans la nécessité d'ajouter des dispositions qui n'avaient pas pu trouver leur place dans l'ordonnance. C'est le livre premier qui traite de la justice de paix. Il n'y avait pas de justice de paix sous le règne de Louis XIV. En revanche, à beaucoup d'égards, ce code de procédure civile a été très immobiliste et on ne peut pas manquer d'être frappé par le fait que pratiquement il n'y est à peine question du pourvoi en cassation. Il y a un titre des voies extraordinaires pour attaquer les jugements, vous y trouvez la requête civile, vous y trouvez la tierce opposition, mais point de pourvoi en cassation. C'est même en retrait, en retard par rapport à ce qu'écrivait Pigeot dans son petit catéchisme par demande et réponse publiée sous l'ancienne France, en l'espèce en 1784, qui consacre au pourvoi en cassation des dispositions dont vous ne trouveriez rien dans le code de procédure civile, bien que de 1667 à 1806, il soit passé des choses concernant le pourvoi en cassation. L'ordonnance du chancelier d'Aguesseau de 1738 et d'autre part cet ouvrage génial que M. Chartier a pas cité tout à l'heure, qui est le mémoire sur les cassations de l'avocat général Gilbert de Voisin, qui donne en une ligne et demie cette définition superbe de la cassation en disant « Il s'agit de juger les jugements et non point le fond des affaires. » Quand on a dit tout ça, on a résumé toute la procédure de la cassation. Le code de 1806, c'était un vieillard à l'époque à laquelle mes complices et moi nous l'avons tué. Il avait en effet 161 ans. Et c'était un vieillard, donc, qui était vieux à sa naissance. Ça, on nous l'a expliqué tout à l'heure, en nous montrant l'histoire de la procédure civile depuis l'ancien temps. Je vais pas y revenir. Que ce code fut vieilli et assez profondément critiquable, on le sentait depuis très longtemps, et il était surtout critiquable dans la partie qui concerne l'instruction de l'instance civile, qu'en réalité, il n'organisait pas du tout, la laissant totalement entre les mains des partis. L'un des principes du code de 1806 était en effet ce que nos confrères italiens appellent le principe de l'impulsion processuelle, c'est-à-dire que la marche chaotique du procès dépendait des initiatives des partis, sans que dans le texte de 1806 le juge n'y pût rien. Théoriquement, il aurait pu y faire quelque chose, car il y avait tout de même dans le code de 1806, au livre 2, un titre 6 qui était intitulé « Des délibérés et instructions par écrit » qui eussent conféré, s'ils avaient bien voulu s'en servir, des prérogatives importantes pour l'instruction des affaires au juge. Procédure des délibérés avait conservé son nom de l'ordonnance. Cette procédure a complètement disparu, sauf devant les tribunaux de commerce, où elle a subsisté tout en changeant de nom, néanmoins, dans le nouveau code de procédure civile. Et les praticiens parisiens ont connu tout ça pendant très longtemps. C'est ce qu'on appelait au tribunal de commerce le délibéré de partie, qui avait notamment comporté l'obligation pour les représentants des partis de déposer à l'avance leur mémoire entre les mains des magistrats. Alors, on constate d'ailleurs à ce propos, à l'époque, ça a peut-être un peu changé, mais pas beaucoup sans doute, une différence très profonde d'un côté et de l'autre du boulevard du Palais. Au tribunal de commerce, les juges commerciaux étaient parvenus à discipliner suffisamment les auxiliaires de la justice pour obtenir une organisation du travail judiciaire qui fût à peu près raisonnable. De l'autre côté du palais, c'était totalement impossible. Comment expliquer ça? Moi, je l'expliquerai d'une certaine façon. C'est que d'un côté, vous aviez au tribunal de commerce des juges élus. Bon. Et ces juges élus, ils ne craignaient pas d'imposer, dans le domaine de la procédure, leur loi aux auxiliaires des partis. Ils avaient une certaine facilité de le faire pendant très longtemps. Pourquoi? Parce que les auxiliaires de la justice qui représentaient les partis devant le tribunal de commerce pendant très longtemps n'étaient pas des avocats. Il y avait très peu d'avocats, c'était des agréés, des mandataires, auxquels les juges commerciaux ne répugnaient pas à faire sortir la férule quand ils en avaient besoin. Mais de l'autre côté, alors c'était l'impossibilité. C'était l'impossibilité dans laquelle était la magistrature d'imposer sa loi procédurale aux auxiliaires de la justice. Ça s'expliquait d'ailleurs par la force que représentait l'ordre des avocats. Et ça se justifiait, ou ça s'expliquait aussi par une autre raison. Par le fait que, depuis le milieu du XIXe siècle, tous les gardes des Sceaux étaient des avocats. Et que le garde des Sceaux avait des pouvoirs excessifs, en ce sens que l'avancement ne dépendait que de lui seul. D'où une certaine révérence à l'égard du garde des Sceaux magistrat avocat et des avocats en général qui pouvaient exercer une influence sur l'éminent confrère qui s'était installé au 13 de la place Vendôme. C'est en grande partie une des explications de cet état de choses. Et quand j'ai entendu il y a quelque temps pleurer sur le fait que la réforme de 1958 avait brisé l'ancienne fraternité qui existait antérieurement entre la profession d'avocat et la magistrature, cette réforme de 58, œuvre de Michel Debré, je dois dire que personnellement, j'en suis tout à fait partisan et que je considère qu'elle a été une chose heureuse et nécessaire. Bon. Mais vous aviez donc cette procédure de délibéré qui avait survécu au tribunal de commerce. Puis il y en avait une autre, c'était la procédure d'appointement dont nous a parlé tout à l'heure M. Chartier. Procédure d'appointement, je ne reviendrai pas sur sa description. Il y en a une description qui est tout à fait satisfaisante et claire dans ce petit catéchisme de la procédure civile qui avait été écrit en 1784 par Pigeot, qui fut par la suite l'un des auteurs du code de 1806, qui rappelle très exactement ce qu'était l'appointement que le code de 1806 avait conservé en l'appelant l'instruction par écrit. Alors, pourquoi est-ce que l'appointement, qui était très pratiqué dans l'ancienne France, notamment au Parlement, mais même dans les autres juridictions, pourquoi est-il tombé comme ça en désuétude? Cette procédure de la prestance, ça consistait à imposer une instruction par écrit, échange de mémoire, etc., sous le contrôle d'un juge. Eh bien, la raison était, à mon avis, la suivante. Dans le droit de l'Ancien Régime, le service fait qui justifiait le paiement du traitement du magistrat par le roi, ce service fait consistait exclusivement à siéger à l'audience et à opiner. Lorsque le magistrat recevait une fonction différente, celle de juge-commissaire pour entendre les enquêtes ou de rapporteur dans la procédure d'appointement, il avait droit à ce moment-là, en dehors de son traitement de base, de percevoir des épices. Épices auxquelles, à propos desquelles on a d'ailleurs raconté des quantités d'âneries, en racontant que c'était des cadeaux que faisaient les plaideurs au juge, ce qui n'était pas du tout le cas. La situation à l'époque du magistrat qui recevait des épices était exactement celle qui est aujourd'hui la fonction de l'expert. Et ce travail s'ajoutant au-delà de ce qui lui était, ce qui était nécessaire et obligatoire, donnait lieu à une rémunération et les épices en question étaient d'ailleurs taxées par le président. Ce n'était pas du tout un procédé de corruption de la magistrature comme on l'a pressenti. Mais enfin, comme d'autre part, le traitement dû par le roi était payé plus ou moins régulièrement, qu'il était d'ailleurs assez médiocre, les épices étaient considérées comme quelque chose qui n'était pas négligeable, et voilà pourquoi la procédure de l'appointement, les procédures d'appointement, parce qu'il y en avait plusieurs espèces, je n'entre pas dans les détails, avaient beaucoup de succès. Mais à partir du jour où elle ne devait plus donner lieu à des indemnités spéciales telles qu'avaient été les épices, elle a beaucoup cessé d'intéresser la pratique judiciaire, si bien que tout ça a été supprimé dans le Code de procédure civile en 1935. Alors, je dois vous parler ici, mais il faut que je le fasse vite, parce qu'il est déjà fort tard. Comment a été substitué à ce Code dont vous avez voulu célébrer la mémoire, mais vous en célébrez en quelque sorte la mémoire, la naissance, en célébrant la mort. Comment a été substitué un régime à un autre? Donc, tout à l'heure, je reviens à ce que disait François Théré, qui d'ailleurs aurait pu tout à l'heure traiter ce dont je vais traiter maintenant, car les opérations dont je vais vous parler, il en a été, puisque j'ai pris le langage du co-auteur, du droit pénal, il en a été largement le co-auteur à l'époque. Eh bien, si la procédure civile a pu être réformée, il l'a dit tout à l'heure, c'est parce que à la compétence législative a été substituée la compétence du pouvoir réglementaire. On avait déjà vu le cas en 1935 et on l'a vu par la suite. Et je dois ici présenter, je fais ma confession, je confesse tout, on va dire que je ne suis pas totalement étranger au changement qui s'est opéré en ce qui concerne la compétence. Car j'avais, entre autres choses, eu l'honneur en 1938 de faire partie du groupe de travail que le garde des Sceaux Michel Debré avait réuni à la chancellerie et qui a élaboré l'avant-projet de constitution et les avant-projets de loi organique. Bon, il se trouve que je portais dès cette époque-là un intérêt à la procédure civile, tout simplement parce qu'on m'avait chargé de l'enseigner dans les facultés de droit, où j'ai d'ailleurs eu des élèves très brillants à qui j'ai enseigné la procédure civile. Marie-France Garraud, dans l'ouvrage qu'elle a publié la semaine dernière, commence en racontant que j'ai été son maître en procédure civile à la faculté de droit de Poitiers. Et par la suite, j'avais collaboré avec Gérard Cornu pour écrire un manuel de procédure civile dans la collection Thémis. Alors, en 1958, j'ai dit au garde des Sceaux, vous allez maintenant séparer le domaine législatif limitativement défini par rapport au domaine réglementaire, surtout ne mettez pas dans le domaine législatif la procédure civile si vous voulez qu'elle soit jamais réformée. Car si vous l'y mettez, eh bien, il se passera sous la Ve République ce qui se passe depuis plus d'un siècle et demi. Personne n'osera y toucher parce que les avocats s'y opposeront. Et le garde des Sceaux a bien voulu m'écouter. Il a pris l'avis du directeur des affaires civiles de l'époque qui a été du même sentiment. Et par conséquent, on n'a pas fait figurer la procédure civile dans l'énumération de l'article 34 de la Constitution. Et, bien entendu, au comité constitutionnel consultatif, il y avait quelques avocats, ils ont bien entendu essayé de remettre la procédure civile dans le domaine législatif. Mais heureusement, le Conseil d'État a été lui aussi d'un avis contraire, l'avis qu'il fallait pas l'y mettre, et voilà de quelle manière nous avons réussi à faire sortir la procédure civile du domaine législatif, et voilà comment on a pu refaire un code de procédure civile. Alors, pour ma part, je m'y suis employé à deux reprises. Premier temps, en tant que garde des Sceaux. Alors, quand j'ai été délivré d'une tâche qui m'avait occupé pendant au moins 2 ans et qui n'a pas été la partie la plus passionnante de mon existence, c'était la répression des agissements OAS, à partir du moment où ça a été terminé, bien je me suis mis à vouloir réformer la procédure civile. Et à ce moment-là, je voulais faire quelque chose qui sortit rapidement, je ne fallait pas entreprendre de rédiger un nouveau code. Et j'ai donc constitué une commission dont est sorti le décret du 13 octobre 1965. J'avoue que Michel Debré précédemment avait déjà réformé le régime des exceptions d'incompétence par décret. Et cette commission, bon, je veux citer 2 noms parce que de personnalités qui ont joué un rôle essentiel dans le travail. Le premier, c'est le nom de mon regretté collègue et ami Henri Motulski, et le second, c'est le nom du président Bellé, qui était à l'époque à la tête du tribunal de grande instance de Paris, et qui, chacun s'en souvient, termina sa carrière comme premier président de la Cour de cassation. Je veux dire que M. Bellé a beaucoup inspiré le travail du décret-loi de 1965, parce que à la première chambre du tribunal de Paris, il avait mis en vigueur toute une série de mesures, c'était un peu l'arrêt de règlement de l'époque, si vous voulez, et qu'il avait eu la volonté d'imposer, bien entendu, il avait réussi à faire prévaloir, et dont l'une des dispositions les plus heureuses, à mon avis, était d'obliger les auxiliaires de la justice à déposer leur dossier quelques jours avant l'audience. Ce qui permettait à ce moment-là de changer complètement le débat. Le tribunal, au lieu d'être obligé d'entendre 2 monologues plus ou moins bien articulés l'un avec l'autre, ayant lu les dossiers, pouvait à ce moment-là, l'audience se transformait en une sorte de dialogue où le tribunal posait des questions en disant « Vous avez dit ceci, qu'est-ce que ça voulait dire là ? Vous affirmez ça, mais je ne vois pas très bien comment vous en rapportez la preuve, etc. etc. » C'était une manière certainement beaucoup plus efficace de rendre la justice. Mais ça a fait pousser des hurlements. Alors, pour l'application de cette nouvelle procédure, nous avions résolu de procéder par expérimentation, c'est-à-dire de commencer dans un premier temps par appliquer cette procédure dans les juridictions dont les présidents convaincus accepteraient de la mettre en œuvre, puis après, on généraliserait. Alors, bien entendu, il s'est passé, à propos du décret de 1965, ce qui devait se passer pour tous les décrets de réforme qui par la suite sont intervenus dans le domaine de la procédure civile, dans tous les cas, vous avez eu un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État, formé par des ordres ou des associations d'avocats. Heureusement, le Conseil d'État n'a annulé qu'une disposition qui faisait une ligne et demie et qui avait trait à la publicité des audiences. Pour tout le reste, les recours ont abouti à une décision de rejet. Alors, je veux dire d'ailleurs que nous avions pris quelques précautions, si j'ose dire, parce que j'avais demandé au vice-président du Conseil d'État, quand j'étais garde des Sceaux, de désigner, mais il est resté après moi, de désigner un membre du Conseil qui avait travaillé avec nous à l'élaboration des textes, qui était M. Potier. Et je dois dire que par la suite, nous avons eu beaucoup de chance que les commissaires du gouvernement qui sont occupés de cette affaire Peut-être ont-ils trouvé que notre procédure était bonne dans la mesure où elle se rapprochait de la procédure administrative. En tout cas, ils ont conclu au rejet et nous avons réussi à faire passer cette réforme. Alors, mais une partie de ma réforme a quand même été à ce moment-là et tombée dans la trappe. Parce que je suis mort ministériellement au mois d'avril 1967. Mon successeur, quelques jours après mon départ, est allé au congrès d'une association qui s'appelait l'Association nationale des avocats. Et là, eh bien, il a voulu sans doute faire plaisir à ses hôtes et il leur a promis que dans le décret de généralisation, on supprimerait cette possibilité donnée au président d'exiger le dépôt préalable des dossiers. Et dans le décret qui a généralisé la nouvelle procédure, cette disposition n'a plus paru. Mais je n'y pouvais plus rien, je n'y avais rien pu faire. Et ce premier décret, c'est celui, mais je ne vais pas y revenir, qui a organisé la mise en état. Je suis revenu sur le terrain une deuxième fois en 1969. Alors en 1969, j'avais fait, si j'ose dire, à terme, une permutation avec René Capitan, dont j'avais été un modeste collaborateur du temps qu'il était ministre de l'Éducation nationale, et qui était devenu garde des Sceaux, et j'avais pris sa succession en tant que président de la Commission des lois à l'Assemblée nationale. Et un soir de décembre, bavardant avec lui dans la salle des conférences de l'Assemblée nationale, je lui ai dit, écoutez, en matière de procédure civile, depuis 1935, on fait du ravaudage. On essaie de ravauder, de rapier, c'est l'ancien code. Il faut faire quelque chose de bien maintenant, il faut faire un code tout neuf. Alors, il m'a dit, je veux bien, à condition que vous preniez la présidence de la commission qui refera ce code. Alors, par désir d'efficacité, j'ai accepté cette fonction que j'ai exercée et nous avons de cette façon refait un code de procédure civile. Un code de procédure civile à faveur duquel, d'ailleurs, on a fini par unifier la procédure en France, puisqu'on a fini par déterminer les Alsaciens et les Mosellans à accepter de renoncer à la procédure bismarckienne. Mais, vous savez, il se passe des choses quelquefois curieuses. Étaient très hostiles à l'unification les avocats d'Alsace et de Moselle, parce qu'ils considéraient que le caractère un peu ésotérique de leur procédure par rapport à celle qu'on appliquait en France leur permettait d'exercer une sorte de monopole de fait auquel ils tenaient beaucoup. Et ils avaient un défenseur acharné en la personne du premier président de la cour d'appel de Colmar, qui était M. Michelich, magistrat d'une grande autorité, j'allais dire d'un grand poids, qui était un Alsacien et qui tenait beaucoup à la procédure locale. Mais, miracle de 1972. En 1972, l'un de nos décrets, parce qu'on avait procédé par des décrets successifs, avait conféré des pouvoirs nouveaux et importants au premier président des cours d'appel. On leur donnait une juridiction de référé, des pouvoirs en ce qui concerne l'expertise, un grand rôle dans l'exécution provisoire, etc. À ce moment-là, M. Michelich est venu nous dire, mais il faudrait appliquer tout ça également. Nous lui avons dit, Monsieur le Premier Président, nous sommes très respectueux du vœu des Alsaciens et des Mosellans, mais ce que nous avons fait là, ce sont les éléments d'un tout qu'on ne peut pas détacher du reste. Et finalement, eh bien, ça l'a converti. Et brusquement, il s'est dit qu'après tout, cette procédure n'était pas si mauvaise que ça. Et alors, on a constitué une commission d'harmonisation entre la commission de réforme et les Alsaciens lorrains, Mosellans. On va dire que là-dedans, dans cette affaire, il y a plusieurs personnes qui ont très utilement travaillé. Il y a eu mon ancien collègue du Palais Bourbon, Zimmermann. Il y a eu un magistrat qui, à cette époque-là, était président du tribunal de Strasbourg et qui est devenu ensuite premier président de la cour de Colmar. Il y avait également M. Hegel. Il y avait également le bâtonnier Rudloff qui, lui, était partisan de l'unification. Et voilà comment nous avons effacé à quelques emprunts près, parce qu'on lui a fait des emprunts qui étaient, à mon avis, utiles en ce qui concerne la juridiction gracieuse dont le code de 1806 ne parlait pratiquement pas. Et nous avons emprunté là-dedans des dispositions au droit local, mais pour le reste, on a fini par unifier la procédure. Voilà ce que nous avons fait. Mais il faudrait se demander ce qui en est resté et ce qui en est aujourd'hui. Alors, je dois dire que nous avions voulu donner au juge de la mise en état des pouvoirs très importants. Dans quelle mesure ne se sont-ils pas, dans bien des cas, contentés de vérifier que les conclusions avaient été échangées, les pièces communiquées, sans trop se préoccuper d'instruire l'affaire quant au fond? C'est une question qu'il conviendrait de poser. D'autre part, eh bien, les données, si vous voulez, ont quelque peu modifié du fait que, dans une large mesure, le juge unique s'est instauré au premier degré de juridiction dans les tribunaux de grande instance, et que, même à la cour d'appel, s'est assez développée la procédure qui consiste à faire entendre les plaidoiries par un conseiller unique, lequel fait ensuite rapport à la chambre à laquelle il appartient. Ben, je remarque d'ailleurs au passage que vous voyez des résurgences, des reviviscences, parce que cette procédure qui consiste à ne mettre en présence des auxiliaires des parties que ce conseiller rapporteur, qui ensuite s'en va avec ses dossiers apporter un projet d'arrêt à la Cour, ben, c'est tout simplement la procédure de délibéré que l'ordonnance de 1667 réglementait et que le code de 1806 réglementait lui aussi. Vous voyez que finalement, dans ce domaine, on se promène beaucoup, mais on tombe toujours un peu sur les mêmes choses. On tombe sur les mêmes choses en rencontrant les mêmes problèmes. C'est plus tout à fait ici la procédure, mais c'est l'organisation judiciaire qui y touche de près. Monsieur Chartier en a parlé tout à l'heure, il a parlé de la division du ressort du Parlement de Paris par le chancelier Maupoux. Ben, j'ai, moi, fait un peu la même chose en divisant le ressort de la Cour d'appel de Paris. Je n'ai pas pu aller jusqu'au bout d'ailleurs, parce que je suis mort ministériellement avant d'avoir pu achever mon projet, la mise au point de mon projet. Mais j'avais projeté de créer 3 nouvelles cours d'appel. C'était Versailles, Reims et Fontainebleau, mais j'ai échoué à Fontainebleau. Et si vous saviez pourquoi? Eh bien, avant que j'ai eu le temps de faire ça, j'ai été combattu, et après mon départ, il a été victorieux, par un ancien bâtonnier parisien qui était président du conseil général du département de l'Yonne. Et il a entrepris de dire que si je détachais le département de l'Yonne du ressort de Paris pour le rattacher au ressort d'une nouvelle cour d'appel à Fontainebleau, j'allais tuer le développement industriel de l'Yonne. Parce que les personnes tentaient de créer une entreprise dans le département de l'Yonne y allaient pour quelle raison? Parce qu'ils savaient que les sentences des prud'hommes du département de l'Yonne seraient frappées d'appel devant la cour d'appel de Paris. J'avais répondu à cette argumentation que ce motif était vraiment bien nouveau, parce qu'enfin, jusqu'à l'ordonnance du 22 décembre 1958, entrée en vigueur le 1er mars 1959, l'appel des sentences rendues par les conseils de prud'hommes de l'Yonne était porté devant les tribunaux du département de l'Yonne, c'est-à-dire le tribunal d'Auxerre ou celui de Sens, s'il en existe un, près de cette juridiction. Mais finalement, mon projet, après moi, n'a plus intéressé personne et les choses en sont demeurées là. Mais à propos, je peux raconter quand même sa chose. Ce détail, je vais terminer là-dessus, parce que je vais dire aujourd'hui que je bavarde, que je ne m'élève pas aux hauteurs où un certain nombre de mes prédécesseurs se sont élevés tout à l'heure, mais de rappeler l'affaire de la division du ressort du tribunal de grande instance de Paris et de la création du tribunal de Versailles. J'avais une opposition très forte, notamment dans la magistrature. Ce que je proposais était affreux, je déchirais la robe sans couture. Et il y avait beaucoup de résistance et beaucoup de grognements. Comment est-ce que j'ai réglé le problème ? Je l'ai réglé de la manière suivante. Grâce à Michel Debré, devenu ministre des Finances dans le gouvernement constitué après l'élection présidentielle de 1965. Je suis allé lui dire, vous comprenez, la nécessité de ce que je fais. Il dit, oui. Il dit, vous voyez quelle résistance, à quelle résistance je me heurte. Eh bien, vous allez me rendre le service suivant. Vous allez accepter de classer les emplois de magistrats dans les nouveaux départements de Nanterre, Créteil et Bobigny, et ceux de la Cour d'appel de Versailles, au même indice que les magistrats du tribunal de grande instance de Paris et que les magistrats ou de la Cour d'appel de Paris. Oh ! Du coup, c'était quelques centaines d'emplois d'avancement que j'avais créés. Alors, cette chose épouvantable que j'avais voulu faire en déchirant la robe sous couture, alors on me pressait en me disant « Mais qu'est-ce que vous attendez pour mettre ces nouvelles juridictions en place ? Il fallait même que je trouvasse des bâtiments pour les placer, etc. » Ce qui présentait un certain mal. Vous voyez comment, de temps en temps, les réformes de l'ordre judiciaire, comme celles de la procédure civile, sont accueillies ou rejetées, réussissent ou sont abandonnés pour des raisons qui n'ont parfois que des rapports assez lointains avec le bien commun et l'intérêt général. Merci de votre attention.
Vous venez d'entendre les communications qui ont été prononcées dans la grande salle des séances le 15 mai 2006 à l'occasion du bicentenaire du Code de procédure civile de 1806, une cérémonie organisée par l'Académie des sciences morales et politiques, dont le secrétaire perpétuel est M. Michel Albert.